Le Christ est ressuscité, Christos enviat, Christos voskresie, Christos anesti. Je sais pas ce qu'il y a comme autre langue extraordinaire. Et donc c'est le cours de, je vous le dis pour vous, c'est le cours de liturgie, plutôt niveau 1 que niveau 2, c'est-à-dire des choses assez simples pour tout public. D'ailleurs, je ne suis pas très spécialiste, je ne peux pas faire de choses trop compliquées. Mais, donc, comme il y a 2 heures le cours, le premier cours, pour le moment, c'est de la liturgie comparée, c'est-à-dire qu'on compare les différentes formes liturgiques pour essayer d'y voir clair. Et le deuxième cours, c'est la présentation du typikon de l'Église roumaine dans la version déjà un peu ancienne. Et voici Père Gérard qui fait une apparition. Ce n'est qu'une apparition. Hein.
Je ne fais qu'une apparition, Gérard.
Voilà, donc c'est ça. Alors, donc, le deuxième cours, c'est le cours de typikon. Voilà. Donc, le cours sur la liturgie comparée, ça a été, je crois, intéressant. Enfin, moi, ça m'a intéressé, en tout cas, jusqu'à présent, parce qu'on a regardé différentes formes liturgiques. On a regardé aussi l'évolution des formes liturgiques, c'était assez utile. Et la dernière fois, j'ai présenté un document liturgique qui est très important. Ah voilà, les étudiants se pressent au portillon.
On parlait du goût et il était avec nous.
Les étudiants font une pression importante pour pénétrer dans les cours. Et oui, donc la première fois précédente, j'avais présenté un document liturgique très important qui est le journal d'Éthérie. Éthérie, ou plus exactement Égérie, parce qu'on l'a été renommée, la pauvre chérie, elle avait été mal nommée. Éthérie, ça fait un petit peu aérien, ça fait un petit peu volant. Et Égérie, ça fait allusion à une nymphe bien connue. Et là, je crois que c'est la nymphe que consultait le roi Numa Pompilius, bien connu également, qui est un des rois de Rome. Mais il y a très longtemps, personne d'entre vous ne l'a connu, évidemment. Et il allait consulter une nymphe qui s'appelait Égérie. Bon, donc on a parlé de cette dame l'autre jour. On ne peut pas rester 3 heures sur le même sujet. Et aujourd'hui, je voulais présenter un autre document très, très intéressant pour la liturgie, l'histoire de la liturgie comparée, qui est le document qu'on appelle les Constitutions apostoliques. Avec un titre comme ça, vous pouvez bien penser que c'est un titre très très important. En réalité, là, mon travail n'est pas d'étudier le livre lui-même. Hein. Donc je vous renvoie à des recherches que vous pouvez faire vous-même. Il s'agit en fait d'une compilation, c'est une compilation très intéressante d'ailleurs, qui date du 4e siècle, et dans laquelle on retrouve des éléments de la Didaké, d'autres ouvrages de l'Antiquité. Tout ça, ça a été compilé pour fabriquer un document auquel on a donné l'autorité des apôtres. Les apôtres sont censés avoir écrit leur propre syllabie. Mais donc c'est donc un document qui a quand même un grand intérêt. Et c'est intéressant parce qu'en fait, l'auteur a compilé, c'est-à-dire rassemblé les documents épars pour faire une espèce de somme quand même de la tradition ancienne dans beaucoup de domaines liturgiques, mais également ecclésiastiques. Donc le terme de compilation ne doit pas être pris dans un sens péjoratif. Et c'est plutôt, on doit plutôt rendre hommage à la personne courageuse qui a bien voulu rassembler tous ces documents dans un seul volume. Bon, donc, mais c'est quand même un ouvrage, c'est quand même une compilation du 4e siècle, c'est quand même assez ancien, et ce n'est pas un document qui invente quoi que ce soit, il crée une petite bibliothèque, en quelque sorte, des documents précédents. Et il les place sous l'autorité des apôtres, ce qui, donc, est un peu discutable, au sens où c'est pas nécessaire que ce document ait une telle autorité, vous voyez. C'est quand même pas une parole d'évangile, faut pas exagérer. Mais c'est important. Et alors, dans ce volume, ce sont 2 volumes aux sources chrétiennes. Le volume, le numéro 320, c'est le premier volume, le numéro 320 qui a été publié aux sources chrétiennes aux éditions du Cerf en 1985. Pas très vieux comme édition. Et le volume numéro 2, c'est numéro. Il y a 3 volumes, en fait, pardon. J'en ai oublié un, je crois, bon. Et le volume numéro 3 que j'ai ici a été publié en 1987 également aux sources chrétiennes. Et j'ai pris ces deux volumes-là parce que ce sont les deux volumes dans lesquels il est question de la liturgie, des pratiques liturgiques. Une question de bien autre, bien d'autres choses. Évidemment, il n'y a pas que la liturgie, si vous lisez, ce sont des éléments de la tradition apostolique, donc rassemblés sous cette forme-là, mais portant sur d'autres sujets. Je peux vous dire rapidement la table des matières, enfin, certains éléments de la table des matières du premier volume, vous allez voir qu'il n'y a pas que de la liturgie. Par exemple, il y a l'enseignement concernant les laïcs, alors il y a tout un chapitre sur la cupidité, il y a un chapitre qui s'appelle « Ne pas rendre le mal pour le mal », et un chapitre qui vous concerne, mesdames, qui s'appelle « Les dangers de la coquetterie », un chapitre sur la lecture, le chrétien au bain, le danger des mauvaises fréquentations, conseil aux épouses, ça peut toujours servir, et que les chrétiennes évitent les querelles. Donc il y a des remarques comme ça. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres chapitres concernant les évêques, les prêtres et les diacres, qui sont assez intéressants, les conditions pour l'accès à l'épiscopat, comment faire, l'interdiction des procès entre chrétiens. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu tout, je dirais. Et puis tout d'un coup, on se trouve en fin du livre 2. En effet, dans le livre 2, il y a 2, 3, 4, 5, 6 chapitres portant sur la liturgie, la célébration liturgique. Et là, c'est assez intéressant, vous allez voir. Donc, je vais passer vous présenter ça. Et après ça, dans le 2, dans le volume 3 que j'ai apporté également, il y a des descriptions de la liturgie qui concernent les offices, par exemple l'office de vêpres. Donc j'ai pensé que ça peut vous intéresser également de connaître ça. Mon but dans ce cours de liturgie comparée, c'est de montrer qu'en fait là, comme je l'ai déjà dit 100 fois, je m'en pardonne, c'est que la vie liturgique chez les chrétiens, c'est une vie. Comme son nom l'indique, ce n'est pas statique, c'est assez foisonnant, c'est très varié, il n'y a pas de contradiction, il y a des originalités, il y a des complémentarités, il y a une évolution, c'est lié aussi à la vie locale de l'Église. Et en fait, les chrétiens ne sont pas enfermés, si vous voulez, dans une loi rituelle ou cultuelle qui serait un peu asphyxiante, d'ailleurs. Et comme si, dans le cas où on aurait, par exemple, déifié les formes liturgiques, vous voyez, c'est pas du tout le cas. La vie liturgique est susceptible de réforme, elle est susceptible d'évolution, et elle est, je dois dire, sans employer un terme négatif, on va dire que la vie liturgique est quand même relative. Elle est relative au temps, à l'espace, à la culture, au niveau de foi des personnes qui se trouvent là. Oui, ça, c'est intéressant aussi parce que quelquefois on rencontre dans certaines communautés chrétiennes une espèce de liturgie, comment on appelle ça, de respect des formes liturgiques qui est un respect finalement un peu excessif. Parce que, je parle de Christ, a dit, dans les institutions liturgiques qu'on trouve dans l'Évangile, il y en a quand même. Par exemple, ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-en tous, et faites ceci en mémoire de moi. Bon, donc le Christ a effectivement institué un acte liturgique, qu'on appelle l'Eucharistie. Mais enfin, il l'a institué d'une manière très générale, oui, il n'a pas dit « il faut sortir de la porte sud et rentrer par la porte nord », il n'a pas dit « il faut s'habiller de telle façon », oui, ça reste quand même très général. Et ça laisse de la place aussi à la créativité dans le domaine des différentes églises locales. Et de même, par exemple, quand le Christ a dit pour le baptême « allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », bon, ça, il a dit ça. C'est vrai, donc on le fait ça. Mais il n'a pas dit autre chose, il n'a pas, même par exemple, il n'a pas dit qu'il fallait rajouter du zéon dans l'eau, il n'a pas dit baptiser, on suppose qu'il parlait d'immersion totale, mais au fond il ne le dit pas. C'est quand même très succinct, vous voyez, les indications liturgiques données par le Christ lui-même, d'après ce que nous avons dans l'Évangile, sont des indications très précises, si vous voulez, mais qui ont un caractère général. Donc ça n'enferme pas la vie liturgique dans des commandements divins absolument immuables. J'allais dire que le Christ s'est bien gardé de donner des lois trop précises. Il a donné des lois générales, il a donné l'esprit liturgique, et l'esprit liturgique, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ça consiste essentiellement à considérer que le Christ lui-même agit invisiblement. C'est ça l'esprit liturgique. L'esprit liturgique, c'est que le Christ est invisiblement présent par le Saint-Esprit, et que nous, laïcs, évêques, prêtres, diacres, tout ce qu'on veut, nous sommes là pour en fait être au service de cette action invisible du Christ. Ça, c'est l'esprit liturgique général. Bon, après tout, le reste, ça peut varier. Et donc, dans les constitutions apostoliques, nous voyons des éléments qui ressemblent à ce que nous faisons, des éléments différents, et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, ça pose une question qui est importante du point de vue du dialogue interchrétien, par exemple, qui est jusqu'où est-ce qu'on peut admettre une diversité liturgique? Jusqu'où est-ce qu'on peut admettre une diversité liturgique. Ben ça, j'ai déjà répondu à cette question. J'avais dit que le critère dans ce domaine-là, c'est que, quelle que soit la diversité des rites, ils expriment tous la plénitude de la foi apostolique et patristique. C'est simple. Par exemple, je donne toujours comme exemple, nous en parlons, un exemple de diversité insupportable, c'est le cas où dans une forme liturgique chrétienne, il n'y aurait pas de prière adressée à la Mère de Dieu. Ben ça, c'est pas possible, ça, vous voyez. Ben ça, c'est pas possible. Pas possible, parce que c'est une forme de... C'est plus de la diversité, vous voyez. C'est une lacune telle que, du point de vue dogmatique, le culte en question s'en ressent. Mais, donc il y a des limites qui font que la liturgie, à ce moment-là, n'exprimerait plus la foi de l'Église. C'est le caractère dogmatique de la liturgie, vous voyez. Caractère dogmatique de la liturgie qui est un critère. Il y a plusieurs critères. Il y a la présence invisible du Christ et il y a la plénitude de la foi qui doit être exprimée par la divine liturgie. Maintenant qu'après ça, il y a des prières en plus, des prières en moins, c'est pas gravissime. Dans la tradition générale de l'Église, par exemple, il y a une prière qui est indispensable, c'est la prière Fils unique et Verbe de Dieu. Ça, on sait qu'on doit l'entendre. On doit entendre les paroles de l'institution, évidemment. On doit entendre notre Père. Il y a quelques points quand même absolument indispensables. Mais il peut y avoir, ce n'est pas gênant, il peut y avoir une certaine diversité liturgique qui ne gêne pas la concélébration. Il faut examiner chaque fois. Ça relève beaucoup quand même de l'autorité épiscopale. Je ne sais pas si on peut... se permettre de faire autrement, mais le chrétien de base que vous êtes, que nous sommes, que je suis moi-même d'ailleurs, dans sa vigilance, observe si quelque chose est exprimé dans la liturgie qui est contraire à sa propre foi, ou si quelque chose qui devrait être exprimé dans la liturgie manque et donc ne lui permet pas de participer, ne lui permet pas de concélébrer, ne lui permet pas de communier, oui. C'est assez important. Il y a quand même une dimension d'unité de la foi qui doit se trouver dans la liturgie. J'ai eu des discussions à ce sujet-là récemment avec des personnes non orthodoxes qui ont assisté à la liturgie dimanche, il y a 15 jours. Et à la fin de la liturgie, plusieurs sont venus et se sont plaints parce que nous avions dit que ceux qui s'approchaient de la communion sont ceux qui sont membres de l'Église orthodoxe. Et donc il y a eu des plaintes de la part des non-orthodoxes, ils disent mais comment, c'est incroyable, pourquoi? Bon, là, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous adhérez à tout ce qui est exprimé dans la liturgie ou pas? Si vous adhérez, ça veut dire que vous êtes orthodoxe, faites votre choix. Moi je ne peux pas vous forcer à devenir orthodoxe. Mais ne me dites pas que vous adhérez à ce qui est dit là et que dimanche prochain vous allez participer à une autre forme liturgique dont le contenu est quand même assez différent. Donc on avait quelques discussions comme ça, pas gentiment, mais nos amis non orthodoxes ciblés ne se rendaient pas compte du caractère dogmatique de la liturgie. Ce qu'ils voyaient, c'est une démarche assez subjective, un peu sentimentale, familiale. Il fallait pouvoir... Comment ne pas communier avec les gens de sa famille? Oui, je suis désolé, si les gens de sa famille ne sont pas orthodoxes, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mais si on est dans ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, s'ils ne sont pas orthodoxes, ils ne sont pas orthodoxes. Oui, donc c'était un peu des discussions pas totalement inutiles, mais qui n'étaient pas sur le bon terrain. Je m'en pardonne d'insister, le vrai terrain de la liturgie est quand même dogmatique. Alors, on ne pourra pas dire le contraire. C'est exactement la question des icônes. On a des icônes qui sont très jolies, on va absolument les garder, parce que pour des raisons sentimentales, mais cette icône est en contravention avec le dogme de l'Église, il ne faut pas la garder. Il ne faut pas la garder. Mais on l'aime beaucoup. Bah oui, mais ça, c'est un autre problème. Elle était esthétique, vous la mettez là dans le musée paroissial, si vous voulez, mais pas dans l'Église. Il faut absolument être précis à notre époque là-dessus, sur le caractère dogmatique de ce qu'on fait. Il faut que l'Église exprime la foi. Ce qui se fait dans l'Église, dans le domaine canonique, dans le domaine liturgique, dans le domaine esthétique, dans le domaine sacramentel, je ne sais pas, tout ceci doit être le moyen d'exprimer la foi de l'Église. Parce que c'est la foi qui fait tenir l'Église debout. Ce n'est pas le rite lui-même, vous voyez bien. Donc un rite qui n'exprimerait pas la foi de l'Église est un rite qui ne sert à rien. Mais par exemple, il est important d'avoir des doxologies complètes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais des doxologies complètes. Alors vous savez très bien, dans certains milieux non orthodoxes, les finales des prières sont uniquement christologiques, par notre Seigneur. Bon, mais ceci, tu l'as fait, et ainsi visant. Les finales doivent être trinitaires, doivent être trinitaires. Bon, c'est-à-dire, donc, mais ça, dans ma bouche, c'est pas un propos polémique, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même, dans toute cette diversité liturgique que je salue comme un bien, il y a quand même un canon qu'on ne dépassera pas à un moment, vous voyez. Alors, revenons un petit peu, si vous voulez, sur les textes. Mon but, c'était quand même de vous présenter les textes, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, c'est dans le livre 2, des constitutions apostoliques, il y a une série de chapitres que je trouve assez intéressants. Par exemple, avant de parler de la liturgie, notre auteur, qui est censé parler par la bouche des apôtres, ou plutôt être la voix des apôtres, avant même de commencer à décrire la liturgie, il donne la condition spirituelle de base pour célébrer. Quelle est cette condition spirituelle de base ? Je vous le demande, mais je vais vous donner la réponse pour gagner du temps. C'est la seule condition qui a été donnée par Dieu. La seule condition, c'est la réconciliation fraternelle. Et donc, il y a un chapitre entier, tous les chapitres 53. Tout le chapitre 53 parle de soi, est un appel à la réconciliation. Et le chapitre 54 parle de la réconciliation au sein même de la liturgie. Et il y a plusieurs. C'est assez intéressant. 53 et 54 traitent de la réconciliation d'un événement énorme sans lequel la liturgie ne peut pas avoir lieu. Bon. Et le chapitre 55. Et le 56. Porte sur un autre point qui est la question de la conversion. C'est-à-dire, donc enfin, il y aurait deux, avant de célébrer la liturgie, avant de célébrer le culte, il y a des conditions spirituelles, et il y en a deux, la réconciliation fraternelle et la réconciliation avec Dieu, en fait. Et se convertir pour adhérer à la volonté de Dieu. Si on n'est pas réconciliant entre nous, si nous ne sommes pas réconciliés entre nous, pardon, et si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, c'est-à-dire si nous n'avons pas opté pour la volonté de Dieu, la liturgie ne commencera pas, oui. Voilà, elle serait vaine, elle serait hypocrite, hein, et en tout cas, elle serait inefficace. Et c'est quelque chose, cette notion-là, je pense que c'est vraiment important que ça soit exprimé. Vous voyez, ce n'est pas une notion rituelle. Là, on ne parle pas de la liturgie comme d'un rite, ou d'un sacrement, ou d'une forme. On parle du cœur de l'action liturgique, qui est en fait l'amour du Christ, qui est la vraie présence du Christ. Comment voulez-vous penser que le Christ soit présent invisiblement si des frères ne sont pas réconciliés ? Ce n'est pas possible. Vous voyez, aujourd'hui, une jeune femme est venue se confesser. et elle me parle de son père, son père s'est mal conduit avec elle, c'est vrai, bon. Et je lui dis, est-ce que vous lui pardonnez? Elle me dit, non, je ne peux pas lui pardonner. Ben, je dis, vous ne pouvez pas communier. Vous ne pouvez pas communier, mais je ne peux pas vous dire. Ben, c'est pas un problème de permission ou d'interdiction, mais je ne peux pas vous dire que vous avez la bénédiction pour communier. Non, non, vous n'avez pas. C'est pas moi qui vous donne la bénédiction et qui vous la donne pas, mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas de Dieu, parce que c'est pas le prêtre qui bénit, c'est Dieu. Le prêtre dit que Dieu te bénisse. Mais alors que cette fille, je lui dis ça, je lui dis, écoutez, il faut que vous travailliez à pardonner à votre papa.
Et c'est valable pour nous tous, c'est-à-dire un jeune homme, par exemple.
Oui, c'est valable pour tout le monde, c'est valable. C'est pour ça que les prêtres, deux fois, demandent pardon aux fidèles pendant la liturgie, une fois avant la grande entrée et une autre fois avant de communier, quand même. C'est important. C'est pour ça qu'il y a le baiser de paix, que, bon, dans l'Église ancienne, il passait dans toute l'assistance. Maintenant, on ne le fait pas parce que on est très nombreux, donc ça serait un peu compliqué. Mais il passe au moins entre les prêtres, bon. Oui, alors justement, je voulais dire que derrière ça, il y a tout de même un texte très important qui est le psaume 50, le psaume de, qu'on appelle le psaume de pénitence, si vous voulez. Ben. Or, dans ce psaume, si vous l'avez en tête, purifie-moi de mes fautes, lave-moi de mes iniquités, lave-moi de l'hysope, je serai pur, purifie-moi du sang versé, etc., etc. Et après ça, il dit, alors on offrira des taureaux, des victimes sur ton autel. Ça, c'est la phrase fondamentale. Alors, c'est-à-dire, on offrira le sacrifice agréable à Dieu quand on aura fait tout ce travail-là de purification, de réconciliation et de repentir. C'est assez important. C'est la raison pour laquelle, c'est pas toujours bien compris, l'Église orthodoxe attache de l'importance à la confession, au sacrement de la confession, avant la communion. C'est pas pour embêter les personnes, vous voyez. Ce n'est pas un abus de pouvoir, mais les prêtres eux-mêmes doivent se confesser avant de communier ou de célébrer.
Il se peut qu'on demande pardon à quelqu'un et que la personne ne veut pas entendre.
Ah oui, si on demande pardon à quelqu'un que la personne ne veut pas pardonner, je pense qu'on essaie une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et après ça, de toute façon, on en parle à son père spirituel. Et je pense que notre prêtre nous dira, la troisième fois, il nous dira, écoute, viens communier. Bon. Mais il va nous encourager à essayer deux fois, à essayer de gagner ce pardon. Oui. Mais à la limite, quelqu'un pourrait dire... Personne ne pourrait dire qu'elle préfère ne pas communier tant qu'elle n'a pas obtenu ce pardon. Mais il y a deux choses, si vous voulez. Il y a obtenir le pardon de quelqu'un qu'on a offensé, et il y a soi-même, dans son cœur, pardonner à quelqu'un qui nous a offensé. Ce sont deux choses différentes. Oui. Et donc, même si on ne peut, si on n'arrive pas à pardonner, je pense à cette jeune fille qui est venue tout à l'heure, elle n'arrive pas à pardonner à son papa, mais elle peut demander pardon à Dieu de ne pas pardonner, vous voyez. Elle peut se rendre compte que c'est. Quelquefois, on ne peut pas, on n'arrive pas à pardonner, c'est trop. Mais on peut demander pardon à Dieu de ça, dire à Dieu, pardonne-moi, oh Dieu, je suis incapable de pardonner, mais rends-moi digne de pardonner. Enfin, on peut au moins essayer d'acquérir ce pardon, vous voyez. Et tout ça, pourquoi? Pour que la liturgie soit possible. Parce que la liturgie, c'est l'offrande du sacrifice agréable à Dieu. Et le sacrifice ne peut pas être agréable à Dieu s'il est entaché de rancune et de ressentiment, de jugement. On ne peut pas admettre dans la célébration du culte des contradictions de cette nature. Il peut y avoir des fautes liturgiques, on oublie quelque chose, on chante mal, le diacre se trompe, le prêtre oublie de dire une bénédiction. Bon, mais ça, c'est pas grave ici, mais... L'essence de la liturgie, étant donné que le Christ est venu dans le monde pour ça, pour réconcilier les hommes les uns avec les autres et tous avec Dieu, si on ne pratique pas la réconciliation, on n'est pas dans le Christ, on est étranger au mystère même du Christ. À quoi sert la croix, vous voyez? Donc c'est pour ça que, l'Église ancienne a insisté beaucoup là-dessus, parce que ça a été mal interprété. Que vous rencontrerez toujours des personnes qui vous diront que c'est ridicule d'obliger les gens à se confesser avant la communion. Ben, premièrement, on n'oblige personne. Et deuxièmement, tout le monde est obligé. Les prêtres eux-mêmes, les évêques eux-mêmes. C'est simple. Et on ne les oblige pas au sens où, bah oui, si tu peux pas te confesser, bah tu combineras une autre fois. Je veux dire, c'est pas, on te laisse le temps. Alors voilà, qu'est-ce que, donc, je m'en parle, c'est un petit peu long, mais c'est pour introduire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il cite, je crois que c'est dans Saint Matthieu, oui, Matthieu 5, 22, la phrase « Qui s'irrite sans raison contre son frère sera passible du jugement. » Il cite également, c'est dans Éphésiens 4, 26, « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il cite Salomon, dans le livre des Proverbes 12, 28, qui dit « Les âmes des rancuniers vont à la mort. » Et surtout, il cite, dans Matthieu 5, 23, 24, les paroles mêmes du Christ, qui dit « Lorsque tu présentes ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, puis viens présenter ton offrande devant l'autel. » Fin de citation. Alors, il commente « L'offrande à Dieu, c'est la prière et l'action de grâce d'un chacun. » Si donc tu as quelque chose contre ton frère ou que lui ait quelque chose contre toi, ni tes prières ne seront exaucées, ni tes actions de grâce ne seront reçues à cause de la colère qui est par-dessous. Vous voyez, c'est ça qui est net, c'est-à-dire que la liturgie va être inutile, va être vaine. Mais ça, Dieu ne va pas écouter la prière des personnes. Moi, je pense que ça, c'est très, très important. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. De guérir dans notre famille, de ceci, de cela, de nous trouver du travail, de réconcilier nos enfants quand il y a des discords familiales. Mais si nous-mêmes ne sommes pas réconciliés avec nos frères et avec Dieu, qu'est-ce que nous pouvons lui demander? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Il y a souvent ça dans notre vie, souvent des contradictions. On se demande pourquoi on n'est pas exaucé. Ah oui, mais on ne peut pas mettre Dieu en contradiction avec lui-même non plus, vous voyez. Alors, dans cette chaîne, pardon.
S'il vous plaît, si on pardonne, mais il y a des motifs objectifs de santé. Donc, le Père, le Seigneur nous pardonne. C'est-à-dire, j'ai pardonné tous, mais je ne peux pas rentrer quelque part.
Comment ça?
Il y a des personnes.
Je ne comprends pas. Ça,
donc, des émotions, la vie. Passé, voilà. Donc ce sont des choses.
Oui, mais pardonner, ça veut dire qu'on n'a plus.
J'ai dépassé, mais j'espère un jour arriver. Donc après, oui, mais, monter quelques.
Non, mais pardonner, ça veut dire que vous n'avez plus de rancune contre cette personne. Vous n'en voulez plus, vous ne souhaitez pas de mal. Et maintenant, vous la bénissez. Oui, bon, ça ne veut pas dire que vous déjeunez avec cette personne tous les jours. Mais quand même, vous n'avez plus de rancune. Vous considérez cette personne comme un frère. Ou une sœur dans la foi, et puis ça reste là. Mais il faut pas arriver à ça.
Pensée, la prière, elle est là.
Toujours. Oui,
mais physiquement.
Non, il y a des gens qui l'écrivain, il continue en insistant là-dessus. Je vous lis la suite parce que c'est quand même important. Il vous faut donc prier sans cesse, frère, mais puisque Dieu n'exauce pas ceux qui, dans leur colère, haïssent injustement des frères, même s'ils prient trois fois par heure, il faut mettre fin à toute haine et à toute bassesse de sentiments, afin que nous puissions prier d'un cœur pur et sans tâche. Et donc, c'est quelque chose qui est indispensable. Pas de haine, pas de colère. C'est interdit. Oui, la colère. Bon, alors après ça, il y a d'autres citations qui sont données, qui sont très intéressantes, qui viennent de Lévitique ou de la Genèse. Ici, je vois, c'est le Lévitique, effectivement. Tu ne haïras aucun homme, tu ne haïras pas ton frère au fond de ton âme, d'un blâme, tu ne blâmeras ton frère et tu ne seras pas chargé d'un péché à cause de lui. Ainsi, si tu veux être chrétien, obéis à la loi du Seigneur. C'est une citation de d'Isaïe, défais tout lien d'injustice. En effet, le Sauveur t'a donné le pouvoir de pardonner à ton frère les péchés commis contre toi jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Et encore la parole de Jérémie qui dit « En vos cœurs, ne méditez pas chacun le mal contre vos prochains. » Bon, je peux vous dire, je peux pas vous lire tout le texte, c'est assez long, mais il insiste, il y a quand même deux chapitres. Ça, c'est la réconciliation avant la liturgie. La liturgie qui culmine avec, c'est très beau, c'est d'ailleurs, « Même si tu ne le fais pas, toi pourtant, attends, même si tu as déjà pardonné et remis à ton frère 490 fois, abonde en indulgence au-delà jusqu'à la bonté à cause de toi-même. Même si lui ne le fait pas, voilà, pardon. Même si lui ne le fait pas, toi pourtant, à cause de Dieu, empresse-toi de pardonner à ton prochain pour que tu deviennes un fils de ton Père des cieux. » Ça, c'est dans Matthieu 5, 45. Et que dans ta prière, tu sois exaucé en tant qu'ami de Dieu. Donc, c'est assez important. C'est-à-dire qu'au fond, l'enjeu de la liturgie, c'est l'exaucement. Nous prions pour le salut du monde, mais nous prions pour que l'Esprit Saint vienne. Nous demandons à Dieu d'envoyer l'Esprit Saint sur les offrandes que nous lui présentons. Il faut quand même que nous soyons exaucés. C'était la question de l'exaucement. C'est très important, ça. Que notre prière, oui, que le miracle ait lieu. Le miracle ait lieu. Et moi, je me rends compte, parce que c'est un peu personnel de dire ça, j'ai beaucoup, beaucoup prié pour des raisons personnelles, et Dieu ne m'a pas exaucé comme je le demandais. Et donc, la réponse à ça, c'est... Ça peut être que Dieu... Bien sûr, on pourrait dire que c'est Dieu qui est injuste, on peut accuser Dieu, etc. Mais la réponse aussi, c'est que je dois me demander à moi, est-ce que j'avais vraiment... En priant Dieu, est-ce que je lui avais demandé pardon de tous mes péchés? Est-ce que je ne vivais pas avec des péchés non pardonnés? Si on reste avec des péchés non pardonnés, on est en contradiction avec Dieu aussi, oui.
Non, on
ne
sait pas.
Ah oui,
ça,
oui.
On
ne
peut pas savoir.
Ah oui, mais on fait le maximum pour nous garder sur la conscience, au moins aucun péché. Il y a des paroisses comme ça, où il y a des péchés qui existent et qui ne sont pas pardonnés, qui n'ont pas été pardonnés parce que les gens n'ont pas demandé pardon, et les paroisses ne vont pas bien, vous voyez, ne vont pas bien. Donc ce sont des vraiment... Et moi je suis impressionné de voir que dans l'Église ancienne, donc au IVe siècle, on avait un tel sens, vous voyez, du réalisme liturgique. Alors après ça, donc, le même auteur dit... Après ça, il y a la réconciliation pendant la liturgie, donc c'est vraiment sérieux. Et dans la réconciliation pendant la liturgie, c'est principalement l'évêque qui l'assume. Chaque fois qu'il dit « paix à tous », c'est assez intéressant, c'est interprété comme en fait une injonction de réconciliation. « Paix à tous », ça veut dire que tous soient en paix les uns avec les autres. Et voilà justement, combien à ceux de près et à ceux de loin, ceux dont le Seigneur sait qu'ils sont à lui, combien plus faut-il qu'en entrant dans l'Église de Dieu, on demande avant tout la paix de Dieu pour le peuple. Si on la demande pour les autres, combien plus doit-on soi-même y demeurer en enfant de lumière? Car il n'a pas la paix en lui... Car qui n'a pas la paix en lui, pardon, n'est pas qualifié pour la donner à autrui. C'est pourquoi on doit avant tout être en paix avec soi-même. Car celui qui ne se révolte pas contre lui-même ne se querellera pas non plus avec autrui. Au contraire, il sera pacifique, amical, rassemblant les biens du Seigneur et se faisant son collaborateur, etc. Car ceux qui fomentent haine et querelle, conflits et procès, sont des méchants et des ennemis de Dieu. Bon, après ça, donc, il insiste sur le fait de se convertir. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche, cette parole que vous connaissez, qui consiste essentiellement à faire la volonté de Dieu ou à chercher à la faire. C'est vraiment intéressant, ça. Il dit que l'essentiel pour pouvoir participer à la liturgie, pouvoir célébrer, après ces deux formes de réconciliation dont j'ai parlé, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu en toute chose. Et que c'est ça la conversion. Qu'est-ce que c'est que... Oui. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites la volonté ou essayez de faire la volonté de Dieu essentiellement. Il dit, nous savons C'est toujours, ça c'est dans le chapitre 55. Nous savons exactement et nous vous disons quelle est la volonté de Dieu, le bien, l'agréable à Dieu, le parfait, ce qui nous a été révélé par Jésus. À savoir que personne ne se perde, mais qu'en lui vouant une foi commune et en lui adressant une louange unanime, tous les hommes vivent éternellement. Donc la volonté de Dieu, c'est ça, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance parfaite de la vérité et soient sauvés. C'est pour ça, dit-il, qu'on a, dans la prière du Notre Père, le fameux « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Bon, et voilà. Et après ça, donc, j'avance un petit peu. Il s'adresse directement à l'évêque. Et ça, c'est le chapitre 57. Et le premier chrétien qui doit avoir réalisé tout ceci, c'est être en paix avec tous et faire la volonté de Dieu et vouloir le salut de tous, etc. C'est l'évêque. Quant à toi, évêque, sois saint et irréprochable. Ni batailleur, ni colérique, ni dur, mais sachant édifier, amender, instruire, sois indulgent, amen, doux, patient, sachant exhorter et encourager en homme de Dieu. Lorsque tu rassembles l'Église de Dieu, exige, comme le pilote d'un grand navire, que les assemblées se tiennent avec grande discipline. Non. Donc, donc ça, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, et ça ressort ici, un des aspects caractéristiques de la liturgie chrétienne de tous les temps, c'est sa dimension épiscopale. La liturgie est une activité épiscopale. La liturgie, dans l'Église ancienne, vous le savez très bien, la liturgie était présidée par l'évêque, puisque les prêtres n'existaient pas comme tels, les diacres n'ont jamais eu à présider, donc c'était l'évêque qui présidait. Rappelez-vous le cours qu'on a fait l'autre jour sur Égérie, la description de la liturgie à Jérusalem. Rappelez-vous que plusieurs fois, elle dit, on attend l'évêque, on prépare tout, etc., et l'évêque arrive. Donc l'Église ancienne avait cette conscience très très forte que là où, c'est ce que disait Saint Ignace d'Antioche, là où est l'évêque, là est l'Église. Il n'y a pas autre chose. Donc on retrouve ça ici, et du coup l'évêque doit être un chrétien vraiment très crédible, d'une grande sainteté, d'une grande préparation. Oui, c'est pas n'importe qui, un évêque. Oui, c'est donc ce qui est le cas. Nous, grâce à Dieu, nous savons ce que c'est que des saints évêques. Nous en avons beaucoup. Hein, oui. Bon, alors, il compare, c'est assez facile à faire, il compare l'évêque à un pilote dans un navire. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est assez intéressant, il y a une description de l'édifice cultuel. D'abord, la maison, c'est-à-dire l'édifice cultuel, sera oblongue, tournée vers l'Orient. Elle ressemblera à un navire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important du point de vue symbolique, c'est-à-dire que l'Église, elle doit ressembler à un navire parce qu'elle est en voyage. Elle est en voyage, en chemin. Elle a une direction. Elle est en mouvement. C'est la raison pour laquelle également on est debout pendant la divine liturgie. Vous allez me dire en bateau, on est assis. Mais on est debout pendant la divine liturgie parce qu'on marche. Hein. On marche vers le royaume, on marche vers le salut. Dans cette dimension-là de l'Église. En marche, en mouvement, c'est une dimension qui était souvent soulignée dans l'Église ancienne. Et c'est vrai que dans la vie liturgique, ça se voit beaucoup. À plusieurs moments, on nous dit de nous lever, pour justement, pas seulement pour honorer la parole, mais pour être en mouvement vers le royaume. Et donc, nous nous déplaçons, par exemple, pour venir recevoir, pour venir communier. Nous devrions nous déplacer également pour l'onction. Je pense que pas. Excuse de dire ça, mais je pense que pour l'onction des malades, les fidèles doivent se déplacer et venir vers les prêtres qui les oignent, et non pas ce qu'on fait quelquefois pour gagner du temps, je pense, que les prêtres se déplacent dans l'assemblée. Je crois que ce n'est pas exact. Les prêtres doivent être là où ils sont, et les fidèles viennent recevoir l'onction de Dieu, qu'ils viennent recevoir la communion, qu'ils viennent recevoir le pain béni, qu'ils viennent embrasser les icônes, qu'ils viennent embrasser la croix. Vous voyez, il y a quand même une démarche de la part du peuple de Dieu qui signifie que ce peuple de Dieu est en mouvement. Il n'est pas statique, ce n'est pas un peuple de consommateurs, ce n'est pas un peuple arrivé non plus. On n'est pas arrivé. On est en route. Voilà, donc c'est pour ça que c'est la forme d'une œuf, et il dit également après, ça c'est assez intéressant parce que là pour vous c'est une différence mais enrichissante. Il dit au milieu sera placé le trône de l'évêque, de part et d'autre s'assiera le presbytérium, c'est-à-dire les prêtres, les diacres assisteront car ils correspondent aux matelots et aux maîtres d'équipage. Ils veilleront à ce que les laïcs s'asseyent dans l'autre partie, avec grande discipline et dans le calme, les femmes à part, qu'elles aussi s'asseyent en gardant le silence. Donc ici, on a une description un peu de l'assemblée liturgique. Au milieu, il dit au milieu de la nef, il y a le trône de l'évêque. Nous, actuellement, nous l'avons, le trône de l'évêque, nous l'avons sur la droite, plutôt. Mais rappelez-vous, c'est vrai qu'au début de la divine liturgie, sous sa forme épiscopale, l'évêque est au milieu. Il est au milieu pendant le...
Il a ouvert.
Il y a quelqu'un qui va entrer. Et donc, c'est très important, l'évêque est au milieu, et même dans certaines formes liturgique, l'évêque s'habille au milieu de l'église et on dit les prières à haute voix. Donc là aussi, ça souligne le caractère épiscopal de la liturgie. Le fait que l'évêque est absolument au centre. Dans certaines églises russes, par exemple, il est même sur un embon, c'est-à-dire qu'il est un petit peu une petite estrade, et il est là pendant la première partie de la liturgie, jusqu'à ce qu'on vienne le chercher avec les diacres, avec l'évangile. Donc vous rappellerez de ça, parce que c'est un élément important qu'on trouve dans plusieurs liturgies de manière un petit peu différente, cette place centrale de l'évêque au milieu de l'église. En même temps, il dit ils veilleront à ce que les laïcs s'asseyent dans l'autre partie. Donc c'est pas très clair ce qu'il dit, mais il semble qu'il y a quand même deux parties. Une partie où l'évêque se trouve au milieu du presbytérium et entouré par les diacres, et puis une deuxième partie où sont assis les laïcs, et ces deux parties distinctes. Alors, c'est malheureusement pas très, 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 très précis. Alors ensuite, on a une description de la liturgie. Je pense qu'il faut aller un peu rapidement, parce que ça va être trop long autrement. Là, par exemple, il y a toute une description de ce qu'on appelle, nous encore maintenant, la liturgie de la parole ou la liturgie des catéchumènes, c'est-à-dire la première partie de la liturgie qui a comme caractéristique les lectures. Vous savez, tout le monde sait ça. Donc il y a donc deux parties principales dans la divine liturgie, la partie parole, catéchétique, didactique, enfin catéchétique plus exactement, qui va jusqu'à la lecture de l'évangile et son commentaire. Et puis une deuxième partie de la liturgie, qu'on appelle la liturgie des fidèles, qui commence avec la prononciation du symbole de la foi, et qui est une partie essentiellement marquée par l'offrande. Donc la première partie, c'est l'écoute de la parole, la deuxième partie de la liturgie, c'est l'offrande, et la transformation, c'est très beau ça, c'est la transformation de la parole en nourriture. Parce que c'est ça que quand le Christ dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il désigne la transformation de la parole en nourriture. Cette parole qu'on a entendue dans la première partie, dans la liturgie dite de la parole, eh bien, dans la deuxième partie, elle se transforme en nourriture et nous allons la manger et la boire et la consommer. Donc c'est ça, cette distinction-là, elle existait dans l'Église ancienne, vous voyez. Alors par exemple, je vous lis un peu un passage pour vous montrer comment il décrit la liturgie de la parole. Le lecteur, debout au milieu de l'église, au milieu de la nef, À nef, ça veut dire bateau, d'ailleurs, hein, au milieu d'un nef, au milieu de l'assemblée, en un lieu élevé, donc sur un embon, pas un embon, oui, c'est une petite estrade. L'estrade, c'est intéressant de dire, on sait que ça existait, ça peut être resté dans certains noms. Par exemple, dans la liturgie latine, on appelle ça le graduel. Et le graduel, c'est le chant qui se chante quand le lecteur monte justement cette petite estrade pour faire la lecture. Donc en fait, il est en hauteur, c'est ce qu'on comprend, parce qu'une lecture, pour être bien entendue, pour qu'elle soit, que la voix porte. C'est une époque où on n'a pas de micro, on n'a pas de... Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lira les écrits de Moïse et de Josué, fils de Noun, des juges, des reines, des chroniques, du retour d'exil, ainsi que les écrits de Job et de Salomon et des 16 prophètes. C'est énorme. Il n'est pas tout le même jour, si vous voulez, mais on a une indication ici sur la nature des lectures. On lit des ouvrages de la loi, on va dire la loi et les prophètes, si vous voulez, ça revient un petit peu à ça, globalement. Ce qui se conçoit, ça c'est une indication liturgique qu'on trouve également dans l'évangile de la Transfiguration. Quand le Christ est sur le mont Tabor, ça veut très bien qu'il est entouré de la loi et des prophètes. Il y a Moïse d'un côté et Élie de l'autre. Donc ça, c'est une indication qui a un caractère liturgique aussi. Mais alors, ceci a disparu. La plupart, là, je fais justement la comparaison. Nous, actuellement, dans la divine liturgie, nous n'avons plus de lecture prophétique. Les lectures prophétiques, elles sont au verbe et encore au verbe pour des grandes fêtes. Donc elles ont... notre liturgie est quand même assez différente de ce point de vue-là. Elle est beaucoup moins scripturaire, en quelque sorte. Sauf, par exemple, à Pâques, vous avez peut-être assisté à ça, la liturgie de Saint-Basile précédée des Vêpres. Et à ce moment-là, vous avez 12 lectures, je crois à peu près 12 ou 14 lectures, je ne sais plus. Et après ça, on enchaîne sur la divine liturgie. Donc, dans certains offices actuellement de notre Église, nous retrouvons ces lectures très 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 abondantes, très très nombreuses. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un petit peu rare. Donc, en tout cas, le lecteur, il fait d'abord ça. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, après les lectures, proclamées deux par deux, c'est assez précis, ça, oui. Intéressant. Un autre lecteur psalmodiera les hymnes de David. Et le peuple répondra en psalmodiant les refrains. Ça, c'est intéressant. On a une bonne indication. Donc ici, la deuxième partie de la première partie est consacrée à la psalmodie. Ce que nous avons encore, hein, nous avons encore la psalmodie au début de la divine liturgie selon Saint Jean Chrysostome, avec mon âme bénie Seigneur. Ça, c'est un psaume. Il y a même deux psaumes qui se suivent. Donc c'était très 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 important. Et alors, vous voyez, comme on a une indication sur la participation du peuple, c'est quand même pas mal. Hein, vous voyez, un autre psalmodiera les hymnes de David et le peuple répondra en psalmodiant les refrains. Alors rappelez-vous, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé quand on faisait les cours sur Maxime Kobalevski, en particulier le cours que j'avais préparé sur la place du cœur dans le chant liturgique. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'en fait le cœur n'existait pas, qu'il n'y a pas de cœur. Il y avait les évêques, enfin l'évêque et le peuple, le diacre éventuellement pour aider, mais bon, mais il n'y avait pas de chorale. Mais il y avait des lecteurs. Et les lecteurs, justement, jouaient dans l'assemblée ce rôle-là, ils lisaient les psaumes et ils suscitaient de la part de l'assemblée la reprise des refrains. C'est très intéressant. Donc on a ici une description de la liturgie ancienne au IVe siècle qui montre que le peuple participait beaucoup. Donc là, c'est, oui, au point de vue de la comparaison, ça permet quand même de retrouver des choses qui ont été dites dans d'autres cours, ou bien, à contrario, de montrer la différence avec la situation actuelle. Encore que, dans l'Église orthodoxe, c'est assez varié. Vous avez certaines paroisses où les fidèles ne disent pas un mot, parce qu'effectivement, le cœur monopolise en quelque sorte, enfin, croit bien faire, oui. Croit bien faire en monopolisant le chant, bon, et puis d'autres paroisses où les fidèles psalmodient vraiment. Mais bon, il semble que la tradition ancienne, c'est quand même que le psalmodie, que le peuple participe.
Si personne ne leur dit qu'il ne faut pas le faire.
Oui, voilà, alors ça, comme vous dites, si personne ne, n'invite le peuple à participer, bah, les gens n'osent pas trop bouger. Je pense à l'expérience que j'ai faite ici, il y a deux dimanches, dans la liturgie, c'est que, en invitant les fidèles à participer, et bien, ils participaient. Et j'avais dit au début, la liturgie, on a même fait une répétition. Dans mon rôle, je ne connaissais pas tout le monde. Donc, avant le début de la liturgie, j'avais dit, bon, écoutez, vous êtes là, on va se chanter en français pour tout le monde, et vous pouvez reprendre les Kyrie Eleison, et vous pouvez reprendre les Amen, et vous pouvez reprendre, répondre à Paix à tous, de ces trois. Alors, on va le répéter, alors, on va répéter. On fait les litanies, on répète une fois, deux fois, bon, c'est bien. Après ça, Paix à tous, ils ont répété Paix à tous, c'était très bien. Après ça, ils ont répété, bon. Et après ça, on a commencé. Eh bien, ils ont participé.
Mais ça veut dire qu'il faut que le cœur lui-même sache qu'il ne faut pas...
Ah oui, mais ils n'ont pas participé n'importe comment, ils suivaient, là, justement. C'est là, quand même, que le rôle du cœur est intéressant, c'est que l'ensemble des fidèles a participé vocalement, mais en s'alignant sur le cœur, justement. Et donc, c'était bien, c'était vraiment une liturgie célébrée par tous. Et donc, là, on retrouve, en fait, la tradition ancienne. Alors, ensuite, c'est pas fini pour les lectures. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Lecture de la loi et les prophètes. Ensuite, lecture, psalmodie, plus exactement, il dit pas lecture, hein, il dit psalmodie. C'est différent. C'est-à-dire que les psaumes sont chantés ou dits sur une note de récitation et il y a des refrains. Donc là, c'est beaucoup plus actif. Ensuite, on lira nos actes, les actes des apôtres, et les épîtres que Paul, notre collaborateur, a envoyées aux églises sous la motion du Saint-Esprit. Donc ça, vous voyez, ça, c'est la partie apostolique, on va dire. Donc il y a la loi et les prophètes, il y a les psaumes de David, et il y a les textes apostoliques qui sont les actes des apôtres, il ne dit pas quand, mais vous savez que c'est surtout pendant le temps pascal, et les épîtres des apôtres. Et ensuite, alors, on arrive à l'évangile quand même. Alors ici, ensuite, un prêtre, un presbytre ou un diacre lira les évangiles. Pendant la lecture de l'évangile, tous les prêtres et les diacres et le peuple tout entier se tiendront debout dans un profond silence. Car il est écrit, fais silence et écoute Israël. Et encore, mais toi, tiens-toi ici et écoute. Puis, les presbytres exhorteront le peuple, l'un après l'autre, mais pas tous. Et en dernier lieu, l'évêque, qui est comparable au capitaine d'un navire. Donc c'est très intéressant cette description. Oui, c'est très organisé. Il y a vraiment dans la liturgie des catéchumènes une pédagogie à la succession des lectures. Et après ça, vous voyez les rôles des ministres, disons, soit pour la lecture, soit pour le commentaire de la lecture, hein, qu'ils appellent une exhortation. L'homélie est une exhortation, c'est-à-dire que c'est pas un enseignement didactique, c'est un encouragement, c'est un appel à écouter la parole de Dieu, à y conformer sa vie, à se réjouir ou à se convertir. C'est intéressant comme expression, je regarde l'auteur. Parakalitosan. Oui, il y a parakalo dedans, c'est-à-dire que c'est un appel, et on a traduit par exhorter, ce qui est en fait, ça désigne la façon de prêcher. Après la prédication, c'est ça. On invite les personnes à telle ou telle attitude. On ne leur transmet pas une information, vous voyez, c'est un peu différent. Ce n'est pas vraiment de l'enseignement au sens didactique, c'est un appel, bon. Et après ça, comme vous le voyez, donc c'est l'évêque qui parle en dernier. Donc on avait quand même une part importante donnée à l'exhortation, puisqu'il dit, les presbytres exhorteront le peuple l'un après l'autre, mais pas tous. Enfin, quelquefois, ils étaient nombreux, s'il y avait 12 prêtres, on ne peut pas avoir 12 personnes qui interviennent, mais plusieurs, et bien, il pouvait donc y avoir plusieurs intervention des prêtres, je ne sais pas, il ne dit pas le nom, mais imaginez une liturgie où il y aurait 3-4 prêtres qui, après l'évangile, parleraient l'un après l'autre, dit-il. Et puis, quand ils auraient tous parlé, l'évêque parlerait. C'est un peu ce que fait Mgr Joseph, j'ai remarqué. Souvent, à un jour de fête à Limours, il va demander à un des prêtres qui sont là de prêcher après l'évangile. Et lui, il n'intervient pas. Et à la fin de la liturgie, tout à fait à la fin de la liturgie, il intervient et il parle à nouveau. Donc, il n'y a pas à se plaindre de dire qu'on a deux homélies. C'est extraordinaire d'avoir deux homélies. Et Mgr Joseph est très fin, puisqu'il reprend des éléments qui ont été dits, il les corrige, il les prolonge. Il est vraiment dans son rôle épiscopal de manière très, très spectaculaire. C'est une espèce de capacité qu'il a de faire la synthèse, de apporter la conclusion, et qui est vraiment son rôle, le rôle d'évêque. Donc vous voyez qu'on l'a dans cette description de la liturgie des constitutions apostoliques, on voit très bien comment est la place de l'évêque. Soit il est là en premier, c'est intéressant, il est là en premier parce que c'est lui qui doit être vraiment, comme on dit, saint et irréprochable, il doit être l'exemple pour tous, et puis il préside, il est au milieu, on a vu ça, mais après ça, quand il parle le dernier, et après lui, personne ne parle. Là, c'est resté dans les canons actuels. Il est hors de question qu'un prêtre, enfin, je pense que ça arrive peut-être, mais c'est une erreur, un prêtre ne parle pas après l'évêque. C'est terminé, l'évêque a conclu, tu ne vas pas ajouter quelque chose. Voilà, bon écoutez, on conclut là-dessus. Oui, j'ai quand même, je pense que vous avez trouvé ça intéressant. Il y a sur d'autres passages très intéressants, un passage sur la préparation de l'oblation eucharistique, la prière universelle. Il y a un chapitre qui est très beau, qui est le texte de l'anaphore, quand même. C'est vraiment intéressant, mais ça c'est dans une autre partie, c'est dans le livre 8. Le livre 8, il donne une version ancienne de l'anaphore, de la prière de l'oblation. Donc on a, oui, au IVe siècle, des éléments liturgiques vraiment importants. Soit dans le journal des Théries, soit dans les constitutions apostoliques. Peut-être que j'y reviendrai, je regarderai pour la prochaine fois si c'est intéressant d'y revenir, mais en tout cas je vous y renvoie. Vous n'allez pas lire tout ça, c'est un peu des gros livres, mais quand même des passages, c'est intéressant. Enfin. Puis de voir que ce que nous faisons a quand même des racines anciennes, tout en étant différent sur certains points, c'est quand même... Vous voyez, on est quand même dans ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire que ce qui se fait dans l'exorthodoxe actuellement, bah, c'est quand même des pratiques, des façons de faire qu'on a reçues des autres. Quoi. Même si, effectivement, on a perdu des choses en route, et en particulier, on a perdu les lectures, les grandes lectures de la liturgie eucharistique. Donc, vous vous rendez compte, quatre lectures. La loi et les prophètes, les psaumes, Épître et Évangile. Lui, il considère que ça fait quatre lectures. Les psaumes sont considérés comme des lectures, même s'ils sont psalmodiés. Voilà, donc on s'arrête là et on passe à la deuxième volet. Voilà, donc dans le typicon de la liturgie, on était, c'est un peu monotone parce que je le lis à la suite, donc on était à cette partie qui est ce qu'on appelle j'en ai parlé tout à l'heure à propos de des constitutions apostoliques, la deuxième partie de la liturgie, donc c'est une première partie qui est... c'est pas vraiment didactique, on va dire pédagogique, en tout cas axé sur les lectures et le commentaire des lectures, vous voyez. Et puis une deuxième partie qui est vraiment l'offrande. Et cette deuxième partie, elle est marquée par le fait qu'on a fini de prier pour, des occasions particulières, c'est-à-dire une fois qu'on a prié pour les catéchumènes, une fois qu'on a prié pour les défunts, éventuellement, si c'est en semaine, bon, on passe à la deuxième partie de la liturgie, et là, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'on a on a la fameuse invocation où le prêtre ou le diacre dit que tous les catéchumènes se retirent. Parce que les catéchumènes n'ont pas à rester dans la liturgie maintenant, et ça ne les concerne pas. Ça ne veut pas dire que ça n'indique pas un mépris à l'égard de ces personnes, mais ce n'est pas leur place. Ils partent parce que la liturgie des catéchumènes est finie. Ils partent parce que l'instruction qui a été préparée pour eux a été donnée. Donc ils n'ont pas à rester. Et effectivement, on a ça. La fameuse cette ekphonèse que vous connaissez tous, qui est « Afin que gardés en tout temps par ta grâce, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. » Ça, c'est la fin de la deuxième prière qu'on appelle les prières des fidèles. Alors ici, il y a une petite remarque à faire là-dessus. En fait, ces deux prières, je n'ai pas le temps de vous les lire, mais vous pouvez le faire. Ces deux prières sont des prières dans lesquelles le prêtre prie en fait pour lui-même. Mais on les appelle les prières des fidèles parce que elles correspondent à la liturgie des fidèles. Ce sont les deux prières qui marquent l'entrée dans la liturgie des fidèles. Alors ici donc, le prêtre a ouvert. C'est important ici parce qu'il a ouvert ce qu'on appelle l'antimension, l'antimis. C'est donc ce linge qui comporte les reliques et qui comporte surtout la signature de l'évêque. Et c'est sur ce linge-là que va avoir lieu l'offrande. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la liturgie des fidèles, c'est que l'antémise est ouvert. Tant qu'il est fermé, c'est qu'on est dans une autre partie. Alors ça, vous allez me dire, on ne le voit pas, parce que les portes sont pas forcément ouvertes. Mais que vous sachiez que quand vous entendez « Afin que garder ou en roumain, « Kassoub stapinéria totta, totta olam fin pesis », quand vous entendez ça, vous savez que c'est que l'antimise est ouvert et que c'est la liturgie des fidèles qui est commencée. Alors, là, ici, a lieu un chant qui est très important et qui est chanté par le chœur, pour le coup. Je ne pense pas que ça devrait être chanté par tous. Donc, en toute façon, la plupart des endroits, c'est chanté par les chantres, parce que ce sont des chants qui sont assez difficiles. C'est le fameux chant du Kérubicum, qu'on appelle Heluihul en roumain, c'est le chant des chérubins. Nous qui, dans le mystère, représentons les chérubins, chantons l'hymne trois fois sainte à la vie sainte Trinité, déposons maintenant tous les soucis de ce monde pour accueillir le roi de l'univers, infiniment exalté, comme c'est, par les armées angéliques, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors c'est un chant qui est très 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 important parce qu'il marque le caractère justement angélique de la liturgie. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous ne pouvons pas, justement par rapport aux autres chrétiens, si vous voulez, nous ne pouvons pas gommer cette dimension-là. Une célébration de la liturgie qui ne comporterait pas une allusion très claire, quand même, à la présence des anges, pour nous, les orthodoxes, ça serait un petit peu embêtant, vous voyez. Parce que nous considérons, depuis les textes de Denis l'Aréopagite, depuis les grands commentateurs de la liturgie, et depuis les textes bibliques eux-mêmes, nous considérons que les anges sont à l'œuvre dans le culte de façon caractéristique, et que nous, les hommes, ce que nous faisons, nous réalisons l'icône de ce que fait le monde angélique. Quand nous disons l'icône ou la reproduction même vocale, quand nous disons saint, 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 nous le disons, mais ce sont les anges qui le disent. Vous voyez, nous faisons connaître visiblement et audiblement, dans le monde sensible, nous faisons connaître ce qui se passe en fait dans le monde invisible et incorporel. Et toute cette dimension, c'est ça qu'on va dire peut-être que une des caractéristiques de la liturgie, c'est la conjugaison entre ce qui est corporel ou sensible et ce qui est incorporel, c'est-à-dire non sensible et plutôt intelligible et de nature à illuminer l'esprit de l'homme. Et donc c'est pour ça que ce chant des chérubins, si vous voyez, c'est pas pour faire joli, on chante là, vous voyez, mais il a une position à cet endroit-là, il a une position fondamentale, c'est lui qui marque l'entrée vraiment dans la liturgie des fidèles, l'entrée dans la partie de consécration, et l'entrée dans la vraie liturgie, en fait. Au fond, la liturgie des catéchumènes n'est qu'une une activité préparatoire, mais jusque-là, les anges étaient en train de se reposer, ils attendaient le moment d'intervenir. Ils n'interviennent, en quelque sorte, que à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup par le fait que quelquefois on porte dans la liturgie, on porte des images des anges aussi derrière l'autel. Voilà. Donc, voilà le typicon que j'ai sous les yeux. Les chantres chantent alors fortera, c'est-à-dire très lentement, le chérubicon, et le prêtre lit en secret, en silence, la prière qui est liée au chant du chérubicon, c'est-à-dire aucun de ceux qui sont liés par les désirs et les liens charnels n'est dit de s'approcher devant toi. C'est-à-dire que le prêtre, je ne relis pas tous, c'est un peu long, vous le connaissez dans la liturgie, le prêtre lit une prière à ce moment-là qui indique que ne peut participer à la liturgie que quelqu'un qui même venant d'une vie incorporelle, est quand même à une certaine liberté par rapport à la vie corporelle, que ce soit par rapport à la sexualité, que ce soit par rapport à l'alimentation, que ce soit par rapport au confort. Celui qui célèbre là maintenant doit avoir une certaine liberté, il doit d'une certaine façon ressembler aux anges qui sont eux carrément incorporels. Donc si vous voulez, on touche à quelque chose qui est très important, qui est très typique de l'orthodoxie quand même. C'est une façon aussi d'interpréter le jeûne eucharistique. Qu'est-ce que c'est que le jeûne eucharistique, qui est quand même obligatoire, excusez-moi, hein. Le jeûne eucharistique, c'est pas seulement ascétique. Peut-être que c'est intéressant, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Le jeûne eucharistique, c'est pas seulement ascétique au sens où on fait un effort pour se priver, c'est pas seulement lié au repentir, par exemple, et ce n'est pas même du tout, il n'y a rien de punitif. On ne jeûne pas pour se punir de quelque chose, mais c'est pas ça du tout. On jeûne pour avoir faim de Dieu, faim et soif de Dieu, ça je pense, mais surtout, c'est ce que montre le texte ici, on jeûne pour accéder un peu à l'état angélique. C'était pas de l'angélisme pour autant, qui serait une sorte d'imitation grossière des anges, mais l'être humain a une capacité il a une capacité angélique. Chez certains personnages, c'est très fort. Chez Saint Jean-Baptiste, par exemple, c'est très fort. On montre souvent, il y a une icône sur laquelle on montre Saint Jean-Baptiste, il est orné de deux grandes ailes. Vous l'avez certainement vu, cette icône-là. Alors, tant qu'il y a deux raisons. D'une part, parce qu'il est le messager du Christ aux enfers, il est le premier à, comme il meurt, il est assassiné par Hérode avant le Christ, donc c'est lui qui précède le Christ aux enfers, où le Christ descendra au moment de sa mort. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, c'est un ange, parce que c'est un messager. Mais je pense qu'il y a l'autre raison, c'est que justement Saint Jean-Baptiste est un exemple de quelqu'un qui vit suivant le mode angélique. On dit ça des moines, vous savez peut-être, quelquefois c'est sûr que ça agace, bon, mais n'empêche que la vie monastique est appelée la vie angélique. Pourquoi ? Parce que un vrai moine, disons, relativement indépendant de tout ce qui est corporel. Il n'est pas asservi aux lois corporelles, il n'est pas asservi aux exigences de la sexualité, il n'est pas asservi aux exigences de la nourriture, il mange juste ce qu'il faut pour soutenir son corps, et encore, certains moines mangent très très peu. Les monastères où les moines plus expérimentés que d'autres mangent une fois par semaine, ou ne mangent que quand ils communient. On a quand même beaucoup d'exemples de saints moines dans les pères du désert, des moines mangeant vraiment très 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 peu, et donc qui, d'une certaine façon, affirmaient leur état angélique. Et ça, c'est ce que dit la prière que dit le prêtre à ce moment-là. Le prêtre est en train de confesser qu'il essaie par sa vie de s'assimiler un petit peu aux anges pour pouvoir justement offrir l'oblation qui est celle des anges quand même. C'est le monde céleste quand même qui arrive là. Oui. Et dans la théologie présanctifiée, on retrouverait des éléments analogues, l'affirmation très forte du monde angélique. Bon, oui, donc on apprend quand même des choses intéressantes. Alors, et le prêtre répète, vous savez, pendant que le chœur chante, nous qui, comme les chérubins, nous qui dans le mystère, pardon, représentons les chérubins, pendant que les gens, le prêtre lui dit cette prière-là, il dit trois fois, il le dit trois fois pendant que le chœur chante. Donc c'est une manière de souligner très très fort, oui, cette dimension angélique de la liturgie. Et qu'à chaque fois, donc en faisant une, alors l'inclinaison, cette demi-prosternation qu'il fait, c'est pour rendre hommage justement au monde angélique. Il s'incline un peu devant les anges, il s'incline devant Dieu, il s'incline devant les anges, ou bien il imite le mouvement des anges qui eux s'inclinent devant Dieu, puisque c'est important ça, c'est le prêtre, ceux qui sont dans le sanctuaire, ils ont des façons de faire, des gestes, si vous voulez, qui signifie le monde angélique. Ils font ce que font les anges. Ils imitent, oui, ils font leur gestuel est un gestuel angélique. Ça, c'est pour ça, par exemple, que c'est pas prescrit absolument, mais j'ai vu certains évêques, quand on chante Saint, 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 qui est un chant angélique, ils font trois méthanies. C'est-à-dire qu'en fait, ils imitent les anges qui sont en train de rendre hommage à la divinité. Voilà. Après ça, il ouvre le dvera, c'est le rideau, et Ushilim Pertesh, les fameuses portes, Yakadelnitsa, Akopala Jinjit et Darun, Dakanulia Akopali Penakum, Shifashe, que dire Yamika, Zukun Inchetishor, Psalmun Shinzesh, Shitropale de Molins, Kut Ingeduya Timpur. Donc, à tout ce mouvement-là est bien indiqué, vous voyez, il a dit la prière, nous qui dans le mystère représentons les chérubins, et après ça, donc, il ouvre les portes, pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'entrée, et justement, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que c'est que la grande entrée? C'est en fait une jonction du céleste et du terrestre. On vient d'affirmer le monde céleste, le monde angélique, et bien il va y avoir une jonction entre le monde angélique et le monde des hommes, par l'entrée. La grande entrée, c'est pas qu'elle sert qu'à ça, si vous voulez, mais elle a comme fonction claire d'assurer cette jonction entre le céleste et le terrestre. Et c'est le moment où, justement, le Christ aussi entre dans le monde, mais il entre dans le monde porté par les anges. C'est pour ça qu'on dit, à la fin de la prière aux anges, on dit « Déposons tous les soucis de ce monde. » Et c'est dans ce monde-là que justement les anges viennent. Les anges viennent c'est intéressant, pour en fait alléger les conditions humaines, pour relativiser, qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, le monde angélique, il relativise un peu la condition humaine et les soucis des hommes. Vous allez me dire, c'est injuste, parce que ça vous paraît certainement très important d'être sans travail, ou d'avoir des enfants malades à la maison, ou que les gens dans votre famille se divisent. On dit, mais comment est-ce qu'on peut relativiser ça? Quelqu'un de votre famille est décédé, un proche, un époux, une épouse, comment relativiser ça? Ça paraît, eh bien en fait, si. Ce sont des souffrances, des peines de ce monde, la disparition d'un être cher, je peux en parler, la difficulté professionnelle, le manque d'argent, le problème de santé, tout ça, c'est bien que c'est lourd, mais n'empêche que c'est relatif par rapport à, pas à l'éternité, si vous voulez, mais à ce qui se passe dans le monde angélique et dans le monde des justes et des saints. Et c'est, il faut quand même mettre les choses à leur place. Et ça, l'intérêt de la liturgie, c'est précisément d'introduire ou de rappeler la hiérarchie des valeurs entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut avoir le courage d'accepter que ce qui est terrestre est passager, est relatif, que nous, ce qui nous intéresse, c'est de participer au monde céleste, au-delà du monde céleste, au royaume même, et finalement de participer à la vie de Dieu. Dans la liturgie, c'est très très élevé, c'est vraiment une action qui connecte la vie sensible à la vie spirituelle, qui connecte la terre au ciel, qui ouvre la porte du ciel pour tous les hommes. Oui, c'est... Alors effectivement, donc on encense, après de ce qui dit Vela, si vous suivez pas la tête, il y a que de Nissa, donc, et il va, enfin, j'ai que dit les amis, c'est-à-dire l'encensement. Alors, ici, il y a deux encensements principaux dans l'église. Alors, le petit encensement qui est uniquement dans l'autel, alors, c'est la table, l'autel trois fois qu'à chaque côté, donc ça fait 12, trois fois la Proto-Comédie, trois fois le Christ Pantocrator qui est dans le fond, et après ça, tous les saints qui sont ici présents, en tout cas trois fois la Mère de Dieu et trois fois Saint-Jean-Baptiste, qui sont bien visibles, et tous les saints qui sont présents, et le prêtre revient devant l'autel, et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, et il va encenser le Christ, la Mère de Dieu, Saint-Jean-Baptiste, et les saints patrons de l'Église. Et puis, il rentre. Alors, là, il y a une particularité, c'est que dans le typicon que j'ai sous les yeux ici, c'est le typicon pour la liturgie célébrée par un prêtre. Hein, la liturgie sous sa forme presbytérale. Quand c'est l'évêque, hein, ça vous le voyez avec Mgr Joseph, c'est très net, quand c'est l'évêque, il va, pendant le kérubicon, il va jusqu'au fond de l'église, il encense tout le monde, tout le peuple, jusqu'au fond de l'église, à Pâques, il tenait le grand cierge pascal, en plus, il va jusqu'au fond et il revient. Mais ça, c'est vraiment la liturgie pontificale. Dans la liturgie presbytérale, c'est le Kedilea Mike et le petit encensement. Et il dit, pendant ce temps-là, il dit le psaume 50, dont on a parlé tout à l'heure, et les tropères de... Bon, les autres tropères, suivant le temps le permet. Voilà. Ça dépend de la taille de l'église. Mais il y a quand même beaucoup d'intéressants comme remarque. Il y a beaucoup d'éléments liturgiques qui sont modulables et qui, en particulier, sont adaptés à l'espace dont on dispose. Si l'église est très petite, le prêtre a tout juste le temps de dire le psaume 50. Si elle est plus grande, il a fini le psaume 50 alors qu'il n'a pas fini d'encenser. Donc, à ce moment-là, il rajoute, par exemple, Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. On peut le dire deux fois, trois fois, quelques fois, et on peut dire enfin, d'autres tropères, Christos invia des morts, c'est un peu ce qu'on veut, suivant le temps. Mais en tout cas, le psaume 50, ça, on doit le dire. Voilà. Alors justement, il explique bien, une fois qu'il a fini ça, il termine l'encensement dans l'autel. Et là, en principe, quand il rentre, il encense l'autel trois fois, la proscomédie trois fois, et le Christ qui est derrière l'autel trois fois à nouveau. Et puis, il rend l'encensoir au diacre ou à l'acolyte qui est là. Mais en tout cas, c'est le prêtre qui met l'encensement. Ça, c'est une caractéristique aussi, parce que dans la liturgie presbytérale célébrée avec un diacre, beaucoup d'encensements sont faits par le diacre. Par exemple, l'encensement qui est fait au moment de l'Alléluia, entre l'Épître et l'Évangile, ça c'est le diacre qui le fait. Soit, enfin, s'il n'y a pas de diacre, c'est le prêtre. Mais la liturgie normale comporte le diaconat. Le diaconat, c'est une liturgie normale, pas exceptionnelle. Bon, mais en revanche, cet encensement-là, du kérubicon, c'est toujours, c'est pas que ce soit le prêtre, c'est toujours celui qui préside. Si c'est l'évêque, c'est qui est là, si c'est l'évêque qui préside, ça sera l'évêque. Si c'est un prêtre qui préside, ça sera le prêtre. Parce qu'on est en train d'entrer dans la partie qui est la liturgie de l'oblation, et c'est le protos, le premier prêtre, qui va assumer en fait l'offrande. C'est lui qui va dire les grandes prières, c'est lui qui va dire les bénédictions avant l'anaphore. Donc, brusquement, dans la deuxième partie de la liturgie, de la liturgie des fidèles, la primauté, disons, de celui qui préside est beaucoup plus affirmée que dans la partie des catéchumènes. Il y a une grande différence dans ce sens-là. Alors, donc il fait ça, il fait des méthanies devant la Sainte Table, disant chaque fois: ô Dieu, purifie-moi pécheur et fais-moi miséricorde. Ensuite, il embrasse l'autel, il embrasse le l'antimension et la croix. Il fait encore une métanie, donc ça fait trois. Alors ça aussi, j'ai dit votre attention sur le fait que c'est bien décrit. Quand on, même vous, quand vous embrassez les icônes, eh bien, excusez-moi, il y a deux métanies d'abord, le baiser à l'icône et une troisième métanie. Ça, c'est l'ordre traditionnel. Et non pas ce qu'on voit dans les églises, on voit beaucoup de choses un petit peu différentes, mais il y a quand même, c'est-à-dire que là, le baiser à l'icône, ou à la croix, ou à la, il est intégré dans une triple métanie. C'est un geste qui est précis et qu'il faut apprendre à tout âge. On apprend à tout âge, même quand on est dans une famille orthodoxe, quelquefois on ne sait pas. Et à plus forte raison, les jeunes ou les gens qui ont été baptisés plus tard ou chrismés plus récemment, leurs parrains en particulier jouent ce rôle-là de leur apprendre. Donc ici, oui, c'est bien indiqué. En ce moment-là, et après ça, il se retourne, et devant, ah voilà, oui, devenant devant les portes saintes, ou royales, se plaque, je peux l'écrire une choche, il s'incline devant les fidèles, leur demandant pardon. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, c'est pas des sentiments, c'est prescrit par le typicon, c'est que le prêtre dit, mais, quel mot, on ne nous dit pas quel mot, c'est simple, pardonnez-moi, priez pour moi, il y a voilà, c'est là, chez le gars, c'est pas dominé. Bon, mais il demande pardon. C'est-à-dire qu'il ne va pas accomplir l'offrande s'il n'a pas ce pardon. Est-ce que les fidèles vont dire, non, on ne te pardonne pas, tu es un méchant, tu n'aimes plus rentrer chez toi. Bon, mais, tu sais pas, il peut y avoir quelquefois des conflits graves et où le prêtre ne peut pas célébrer. Ça m'est arrivé une fois, c'est très intéressant, mais ça m'est arrivé une fois, c'était avant la liturgie, pendant la visite de matine, il y avait eu un, je ne sais plus quoi exactement, mais donc, ce que j'ai dit quelque chose, et ça a été mal, je ne sais même plus ce que j'avais dit, bon. Enfin, ça a été mal accepté, et une personne en particulier a pris certainement mal, elle est partie de l'église en claquant la porte. Elle a eu tort, ça ne se fait pas, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ça devait être quelque chose de grave, probablement. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je me dis que je vais faire? Je me suis dit tout de suite, moi, je ne célèbre pas dans ces conditions. Je ne célèbre pas. Donc, la personne était partie sur le parking, c'est partie s'enfermer dans sa voiture. C'est affreux. Et moi, j'ai dit, moi, je ne célèbre pas. Alors les fidèles étaient là, ils disent « Ouais, mais attends, on est venu, on est là, tu ne vas pas nous laisser. » Puis moi, non, franchement, je ne célèbre pas. Je parlais à cette personne, je veux bien lui demander pardon publiquement, si je l'ai offensé, si j'ai eu tort, je ne dis pas que j'ai eu raison, mais je ne vais pas célébrer.
Et après,
alors ce qui est intéressant, c'était la réaction des fidèles. Les fidèles ont dit « Écoute, tu as tout à fait raison, etc. Mais nous, on est là et on te demande de de célébrer, oui, les fidèles. Allez-y, elle est revenue après cette personne, oui. Elle est revenue à la fin de la liturgie, mais elle a su qu'on était prêts à ne pas célébrer. Quelqu'un a dû aller la chercher, je sais pas. Mais les fidèles, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité. Ils ont dit, écoute, on est tout à fait d'accord, vous avez raison, mais comme on est là qu'on a été témoin de ce qui s'est passé, on est bien au courant, mais on assume ça, on l'assume, et on célèbre. Mais, en fait, je trouve qu'ils étaient tous levés tôt le matin, ils ne voulaient pas être venus pour rien. Et c'est pour dire que cette demande de pardon, elle peut être refusée, vous voyez. C'est une panne liturgique à ce moment-là. C'est un peu comme l'axios, vous savez, on ordonne des prêtres, on dit « Axios, ax, vlednik, este ». Si quelqu'un dit « Nous, vlednik, nous, este ». Nevelen, on dit. On arrête. Et ça, c'est pas impossible, vous voyez. C'est pas impossible. Si on découvre que, c'est pas que ce garçon, pour prêtre, vit avec une autre femme, qu'il a une liaison avec quelqu'un de la paroisse, c'est pas possible. Ça n'arrive pas, ce genre de choses, évidemment, mais imaginez qu'il y a quelque chose de cet ordre. Quelqu'un va dire non, mais en principe on le dit avant, enfin on le dit auparavant, avant la liturgie, les fidèles, sachant que tel, un tel va être ordonné prêtre, vont trouver l'évêque et lui disent, écoutez, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ce garçon-là est quand même un peu fragile, donc c'est pas possible de faire ça. Et donc l'évêque, apprenant ça, dit, bah oui, effectivement, je savais pas, bah bon, et l'ordination n'a pas lieu. Mais ça peut, dans des très grandes églises où quelquefois l'information passe mal, enfin, il y a toujours la possibilité d'interrompre. C'est pour ça que je reviens, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs dans le premier cours, il y a toujours la possibilité d'interrompre l'action liturgique parce qu'il y a une faille dans la vérité, il y a une faille dans le pardon, il y a quelque chose qui empêche. Imaginez quelqu'un, dans le cadre d'une ordination, un prêtre aurait publié un livre avec des erreurs dogmatiques, des erreurs graves, ben, on dit non, on ne peut pas célébrer avec ce prêtre, on l'aime beaucoup, mais on ne peut pas l'avoir. Oui. Ah bon, donc toujours est-il que donc le prêtre ici, vous voyez, c'est plaque une chose, c'est-à-dire se s'incline, hein, je pense que c'est ça que ça veut dire en roumain, et leur demandant pardon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est l'entrée, la grande entrée, Urmeas abord de mare, Sauyeshire, Kuchinjite dar. L'expression Vorod est une très très belle expression qui est d'origine slave, qu'on emploie pour les processions. Bon, là, ici, l'entrée, la grande entrée, mais qu'on emploie également pour la sortie à Pâques, quand on sort avec l'épitaphe dans la rue, ces grandes sorties, en fait. Je connais pas le mot lui-même, c'est un mot russe, en fait. Vorod. Vorod. C'est une sortie, en fait. Mais c'est une sortie, c'est une procession, en fait. Une procession. Et donc, ce mot-là est un mot très, et on le fait également pour la Mère de Dieu, le 15 août, avec l'icône de la Mère de Dieu. Voilà. Voilà. On sort. Donc, c'est une très belle expression. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, il commence par aller donc à la prothèse, sur le coin, sur la gauche à peu près, et il va donc, il prend les dons qui sont, comme vous savez, on a déjà parlé de ça, le calice et la patène, et qui sont recouverts des voiles liturgiques. Ça, on en avait parlé déjà une autre fois. Il les parfume. Alors pourquoi est-ce qu'il les parfume? Parce qu'on parfume tout ce qui est digne d'honneur. Alors comme ces voiles de calice recouvrent le corps et le sang du Christ, ils sont dignes d'honneur, ils sont donc parfumés. Il les embrasse. Et bien après ça, il prend la patène de la main gauche, il la tient, alors c'est très intéressant, ça c'est très important, c'est-à-dire que les dons ne sont pas portés à la hauteur de la poitrine. Ouais. Ils le sont quelquefois, mais là on est en train d'essayer de retrouver le typicon juste. Tout ce qu'on porte dans l'église, on doit le porter à la hauteur du front. Quand on porte des icônes, ça doit cacher notre visage. Quand on porte l'évangile, ça doit cacher notre visage. Et quand on porte des dons, ça doit cacher notre visage. Donc, il faut qu'on le dise aux jeunes prêtres, éventuellement. L'autre jour, il y avait dans une église, on a fait la procession pour les icônes, je crois, le dimanche de l'orthodoxie. Et c'était très bien parce que les personnes qui portent les icônes, ils les portaient vraiment à la hauteur de leur visage. Alors, on ne voyait pas leur visage. Ça ne nous intéresse pas, le visage des gens. Ce qui nous intéresse, c'est l'icône. Et là, c'est pareil, le prêtre doit porter les saints dons. Alors, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il regarde en dessous, il marche, etc. Bon. Mais moi je me rappelle d'avoir vu quelques exemples quand même de célébrations remarquables, en particulier le père Sophronie au monastère d'Angleterre. Et quand le père Sophronie sortait avec les dons, il les portait très haut, très haut. Et il était petit de taille. Le père Sophronie n'était pas très grand. Et donc, mais il les portait au-dessus même de sa tête. On le voyait. Les dons portés comme ça devant tout le monde, visibles, et on ne le regardait pas lui. Voyez. Et effectivement, c'est bien de les porter en hauteur, parce que quand il y a une foule, il faut qu'on voit les dons, qu'on voit qu'ils sont apportés. Et alors, dans certaines églises roumaines, les prêtres touchent la tête des fidèles, des enfants, des gens qui sont là, avec le bas de la baptême. Pourquoi pas? Mais à part ça, il faut qu'ils le repartent en hauteur pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe, qui entre à ce moment-là. Oui. Alors, tout ça, c'était pendant qu'on chantait le Kérubicon. Hein. Et quand se termine le Kérubicon, le prêtre, précédé d'un porteur de lumière, qui tient également l'encensoir, sort par la porte sud, voilà, oui, et, c'est très beau ça, Peshin Inchet, marchant doucement, Koukouvin, Chivla, c'est-à-dire qu'avec piété, donc c'est une manière d'être quand même dans la liturgie, c'est pas un déplacement, vous voyez, il se déplace pas de la prothèse, non, il marche lentement avec piété, conscience en fait de ce qu'il fait, et le texte est très bien. Rostejte, formula pentu pomenir episcopo pour lui, loco lui. Bon, alors ça c'est ce que vous connaissez, vous avez vu ici, bien sûr, dans la cathédrale et ailleurs, donc il y a une différence. Quand il y a un diacre, le diacre commence par dire Pevoi, Petos, Dreps, Levito, Kreshtin, de vous tous, fidèles, confesseurs de la vraie foi, que le Seigneur se souvienne. Ça, c'est quand il y a un diacre. S'il n'y a pas de diacre, on commence directement par l'autre formule, ce qui consiste à nommer l'évêque du lieu. P, parentele nostru, archipiscopul, și metropolitul nostru, acela, Iosif, pardon. C'est le pomenafre, Domnul Dumnezeu nostru, într-un parentiaș, donc que le Seigneur Dieu se souvienne. Alors ça, c'est très important, ça recouvre ce qu'on disait tout à l'heure dans le premier cours, le caractère épiscopal de la liturgie. Et ça, le prêtre le dit, même dans la liturgie épiscopale. Dans la liturgie épiscopale, l'évêque reste à l'autel, le ou les prêtres sortent, et ils nomment l'évêque qui est présent. Ça, de toute façon, donc il y a toujours, dans la liturgie, que l'évêque soit là ou qu'il ne soit pas là, On le nomme. Et en plus, l'évêque qui est à l'autel, c'est pas forcément l'évêque titulaire, ça peut être un évêque vicaire ou autre. Donc, du coup, on nomme l'évêque titulaire. Par exemple, je prends l'exemple. Imaginez que le prêtre sorte, il va nommer Monseigneur Joseph. Monseigneur Joseph est l'évêque titulaire. Et si à l'autel, c'est Monseigneur Marc qui s'élève, peu importe. C'est l'évêque titulaire qui est nommé. D'après ce que dit le typicon, vous voyez. Et voilà. Pentru pomenirea episcopului locului, l'évêque du lieu. Vous voyez? Alors, il arrive au milieu de l'église, et le prêtre reste sur place. Ah oui, tourné vers les fidèles. Oui, donc il y a un mouvement. Alors, ici, il y a deux façons de faire aussi, que je vous signale quand même, pour l'instruction. Dans les petites églises, on a le temps d'aller tout à fait au fond. C'est-à-dire que le prêtre précédé des chandeliers, il tient les dons, et il va aller au fond de l'église et il va venir par le centre. Ce qui est très avantageux parce que ça souligne la participation de tous, ça évite que ce soit un spectacle, et ça permet de terminer le Kérubicon, disons aussi. Mais non, le Kérubicon est terminé auparavant. Non, c'est surtout pour inclure le peuple dans l'offrande, vous voyez. Et puis, on revient par l'entrée centrale. Dans la plupart des églises qui sont plus grandes, par exemple à la cathédrale, l'entrée se fait devant, simplement. Et ça a un inconvénient, c'est que c'est un peu comme un spectacle, au fond. Bon. Voilà. Donc, et dans ce qui est important, c'est qu'il se retourne vers les fidèles, et là, suivant les églises, dans l'église romaine, c'est très développé, ça dure très très longtemps. Et dans d'autres églises, l'église russe ou grecque, ça dure très très peu. Là, il y a des usages un petit peu différents. Et la formule finale, c'est effectivement « Chepevoi petos, drept meritori lor, Christine ». Oui, « drept meritori lor ». Je me trompais, oui. « Christine, se veut pas mener à ce qu'à Domnul Mesonos, tu me réacces à ça, toi de Auna, comme je pourrais, je vais chiver, je vais chiver, je. Mais donc, c'est intéressant, la prière de l'entrée, ça commence, on commence par nommer l'évêque, et on termine en nommant les fidèles. Donc on a une présentation totale en fait de l'assemblée, c'est très bien. Alors après ça, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre va entrer quand la chorale chante pour recevoir Kamparatul, Kapé Imparatul Tutor, c'est le primim. Donc, pour recevoir le roi de toutes choses, invisiblement porter les armées angéliques, alléluia, alléluia, alléluia. C'est très beau ça. Donc en fait, ici, ça, on désigne que le dans le calice, c'est le roi. C'est le Christ qui est dans le calice, déjà, avant même la consécration en tant que telle. On a dit, déposons maintenant tous les soucis de ce monde, pourquoi faire? Pour recevoir le roi de gloire, escorté par les armées angéliques. Et, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la grande entrée. La grande entrée, c'est un moment très, 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 très important. C'est à la fois la jonction du ciel et de la terre, comme je vous disais, et c'est la, comment dire, la présentation du Christ roi dans sa propre, au milieu de son propre peuple. Et c'est le Christ qui vient dans le monde et qui, pour le monde, revient vers le Père. Donc c'est très beau ce mouvement. Il sort, il va dans son monde, il prend tous les hommes avec lui, dans la prière qui est dite, on prie pour ceux qui souffrent, les malades, les bien portants, etc. Et après ça, il rentre, et à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. À ce moment-là, le cœur chante pour recevoir le roi de gloire. Donc il entre avec le monde entier, en quelque sorte, dans le sanctuaire et retourne vers le Père comme en tant que roi du monde. Voilà. Alors, pendant que la chorale chante rare, c'est-à-dire lentement, pour recevoir le roi de gloire, le prêtre se tourne, il se tourne à gauche. Oui, c'est très bien ça. Sentoache sprestunga, si trecând printre sfesnișile mari, intre. Oui, surtout pourquoi? Parce qu'en fait, les mouvements, je vais donner cette indication quand même, les mouvements de lui se font toujours de la droite vers la gauche. Par exemple, quand on encense l'autel, c'est toujours à main droite. Et donc tout ce qu'on fait, on devrait le faire toujours. C'est toujours cette circulation-là, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Donc effectivement, le prêtre se tourne vers la gauche, parce qu'en fait, il fait un mouvement de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et normalement, il doit entrer dans l'autel en mettant le pied droit d'abord. Il y a toute une symbolique corporelle aussi, du gestuel, qui est à respecter. Pourquoi? Ben si, parce que c'est un langage, ça veut dire quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Encore un petit peu de temps. Oui. Alors après ça, il y a trois. Oui, il y a les trois pères qui sont dits en silence. Là, effectivement, il y a toute la question qui se présente ici, qui est la conjugaison entre ce qui est dit à haute voix et ce qui est dit en silence. Il y a quand même des choses qui sont dites en silence. Là, par exemple, Joseph déposa dans le sépulcre neuf, ça c'est dit en silence. Porteur de gloire, ça c'est dit en silence. Il y a des prières qui sont dites par le prêtre pendant que le chœur continue à chanter, et ces prières sont dites quand même en silence. C'est pas... Bon, il pose les saints, les objets du culte, c'est-à-dire la patène et le calice sur la sainte table, parce que ici dans le typicon roumain, il emploie tout le temps l'expression sfintamas, ça revient tout le temps, c'est l'expression majoritaire. J'avais expliqué ça une autre fois, qu'en fait l'autel n'est pas que ça. L'autel c'est aussi le trône et c'est le tombeau, il y a au moins trois choses. C'est le trône, c'est le tombeau et c'est la table. Mais donc ici dans la rédaction que j'ai ici, c'est toujours le mot table. Enfin, c'est assez juste quand même, parce que c'est la table au sens où c'est l'endroit du repas, c'est l'endroit de l'offre. Ben, l'endroit du repas, oui. Mais c'est pas que la table, c'est l'autel du sacrifice. C'est l'autel du sacrifice, la table du repas, le trône du roi des rois, et c'est même le marchepied de sa gloire, vous voyez. Il y a beaucoup de choses, le symbolisme de l'autel, c'est très très riche. Hein. Ah bon. Alors, il pose la patène à gauche et la coupe à droite, d'accord. Il enlève leurs parements, les tissus qui les couvrent, qu'il embrasse et les pose sur le côté de la sainte table. Ensuite, il prend le, ce qu'on appelle l'air. Qu'est-ce que c'est que l'air? C'est le grand voile. Ça fait qu'il y a trois voiles, bon, d'accord. Alors, en fait, il a mis pour l'entrée, le prêtre a mis sur ses épaules le grand voile, il l'attache avec un petit cordon. Quand il arrive à l'autel, il enlève le petit voile en forme de croix de la patène et le petit voile carré de la patène, il plie tout ça sur le côté, il enlève l'air qui est sur ses épaules, il le parfume à l'encens soir qui est là, et il met cet air sur les dons complètement. Ça va rester comme ça jusqu'au Saint. Donc les dons restent couverts. Et dans la liturgie des présanctifiés, il y a le même rite à peu près, l'air également sert à couvrir les dons. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué ça une fois. Pourquoi est-ce qu'on couvre? C'est pour découvrir. Pourquoi est-ce qu'on ferme? C'est pour ouvrir. Pourquoi est-ce qu'on cache? C'est pour révéler. Parce que le mouvement de la liturgie est un mouvement continuellement de dévoilement, en fait. Et donc, on crée des situations où il y aura un dévoilement. Et le dévoilement va se faire quand on va chanter Saint, le prêtre va dévoiler les dons à ce moment-là. De même qu'à la communion, je me suis aperçu de ça, il faut faire très attention quand on célèbre, quand on sort avec les dons pour la communion, on dit qu'on fait les cadres, on sort avec le calice qui est couvert, avec le voile rouge et la cuillère est posée dessus. Et après ça, on découvre le calice. Il faut faire ça bien, c'est pas seulement le découvrir comme ça, c'est découvrir ce qui apparaît, c'est quand même le calice dans lequel est le corps et le sang du Christ. C'est extraordinaire. Donc il faut qu'il y ait vraiment révélation. Alors, regarde ce qui est important après. Encore, il le parfume. Ça, on parfume tout le temps. Cette importance donnée au parfum, je crois que c'est... En fait, le parfum valorise. On parfume ce qui a de la valeur, mais c'est pour montrer sa valeur ou pour lui donner de la valeur. Ça, c'est assez typique aussi de l'Église, ça, de la liturgie. J'avais fait un cours là-dessus une année. J'avais expliqué que la liturgie et les sacrements sont un lieu de valorisation. Par exemple, si on bénit de la terre, on valorise la terre. Et la valeur, elle peut devenir une valeur extrême quand on offre le pain et le vin et qu'ils acquièrent la valeur même du corps et du sang de Dieu. Donc c'est assez intéressant, c'est un processus de... Oui, je ne sais pas comment appeler ça, oui, d'amplification de la valeur. Qu'il dit de consécration, c'est-à-dire quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui a acquis une valeur maximale parce qu'il ne sert plus qu'à une fonction. Il est exclusivement réservé à telle fonction. Ça, c'est le cas, bien justement, dans quelque chose qui est consacré ou une personne qui est consacrée et valorisée, en quelque sorte, à l'extrême. Oui, il y a une ordination, c'est une valorisation. Tout ça, c'est assez important, le procédé de valorisation dans l'Église, et c'est une chose qui n'existe pas du tout dans le monde non orthodoxe comme les protestants. Les protestants n'ont pas de consécration, ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de phénomène de valorisation. Tout est séculier. Après, c'est un monde, le monde protestant, bon, j'espère ne blesser personne, mais il me semble que le monde protestant, le monde réformé, est un monde de sécularisation, alors que le monde de l'orthodoxie est un monde de valorisation sacramentelle et de consécration. Et les protestants refusent même l'idée de consécration. Enfin, ceux qui m'en ont parlé, les protestants à qui j'en parlais, m'ont dit « il n'y a pas de consécration, non, il n'y a rien de tout ça. » Alors que nous, au contraire, on n'arrête pas de consacrer, de reconsacrer, de souligner la consécration. Bon, il prend encore l'encensoir, il encense les saints dons trois fois. Ah oui, disant les derniers versets du psaume 50, je ne savais pas, j'ai oublié ça, fais du bien dans ta bonté, fais du bien à Sion. Ça, je ne savais plus, j'avais oublié, donc oui, c'est autant pour moi. Donc en fait, quand il encense les dons arrivés sur l'autel, il dit le dernier verset, enfin, un des derniers versets du psaume 50. Alors, il se retourne et il ferme les portes royales, saintes, et le rideau. Et, s'il reste du temps, il peut rajouter une prière, la prière de déposition des dons. Alors, ce que vous savez très bien aussi, c'est que là, je parle de la liturgie sous sa forme presbytérale. Si c'est une liturgie avec l'évêque, on ne ferme pas les portes. Donc ça, il y a une raison. Il y a une raison pour ça, c'est que d'abord, la présence de l'évêque doit être signalée, doit être visible. C'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cours sur les constitutions apostoliques. Et c'est aussi lié au fait que l'évêque est celui qui ouvre la porte des mystères. Il est le mystagogue par excellence. Donc c'est l'évêque qui ouvre les portes à tout homme qui veut être sauvé. C'est lui qui a le pouvoir souverain de délier. Bien sûr, les prêtres peuvent délier. Si l'évêque leur donne la bénédiction, ils peuvent faire l'obligation des déslégales, ils peuvent dire l'absolution. Si l'évêque leur donne, mais ils ne le donnent pas toujours. Mais donc, qui est-ce qui a ce pouvoir-là? C'est l'évêque. Et donc, c'est pour ça que tout est ouvert, tout est délié, tout est, libéré. Il est comme l'icône du Christ qui ouvre les portes même de l'enfer, comme on voit sur l'icône du Samedi Saint. Vous voyez, on voit les portes qui partent, qui volent en éclats. Mais ça, c'est le rôle de l'évêque aussi, c'est de délier. L'évêque est un délieur, je ne sais pas comment dire, vous voyez. Parce que il est le successeur direct des apôtres à qui le Christ a dit « Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc c'est ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir souverain qui signifie justement par l'ouverture des portes. C'est-à-dire, c'est la caractéristique, c'est que ces portes sont ouvertes également pendant toute la semaine radieuse. Il y a la semaine pascale. Donc il y a bien un lien entre les deux. Mais le passage de la crise par la mort a délié, n'a pas introduit le pardon dans le monde, et de même l'évêque qui célèbre, il est celui dont le ministère est essentiellement un ministère d'absolution. Bon, après ça, donc on a la litanie, vous savez très bien. Une fois que tout s'est terminé, on a la litanie qui est « Accomplissons notre prière au Seigneur, c'est plénim, le gâchis est noir, c'est la dôme, nous lui. » Dôme, il n'y a pas là. Pardon, j'ai des fautes en romain, excusez-moi. Ah oui, ça c'est intéressant parce que les portes donc sont fermées et le rideau également. Et après ça, mais la fin de cette litanie, la litanie « Accomplissons notre prière au Seigneur », il y a une bénédiction, « Pace tout au long », et pour sentir cette bénédiction, on ouvre le rideau. Oui, oui. « Pentua chasta », c'est « Deschide dvera », « Chiapoi », c'est « Unkide la loc ». Donc, on ne dit quand même pas « Paix à tous » derrière le rideau fermé. On ouvre le rideau. Alors ça, vous allez voir qu'il y a des différences. J'assure que si vous allez aller dans certaines églises russes, le prêtre dit en russe « Mirsiem », mais il dit « Mirsiem » derrière le rideau fermé. Eh bien, en fait, le typicon romain dit qu'on ouvre le rideau pour dire « Paix à tous » et on le referme après. Si, ça se comprend aussi, parce que c'est pas seulement dire « Paix à tous », mais c'est faire le geste avec la croix, ce qui est quand même significatif. Donc les fidèles voient cette bénédiction sur eux, mais les portes restent fermées. Donc ça, c'est aussi, ce serait à commenter, ça, toutes ces nuances qu'il y a dans ouverture, fermeture, ce qui se voit, ce qui se voit pas, ce qui, ça, l'usage des lumières également, ça, c'est vraiment l'esprit orthodoxe, ça aussi, vous pouvez difficilement expliquer ça. Après, qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est Yubin, oui, aimons-nous les uns les autres, afin que d'un seul cœur nous confessions. Oui. Afin que nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est très important, c'est qu'en fait, la réponse des fidèles à ce moment-là est une réponse qui est c'est un credo, en fait, c'est un mini-credo. Et vous savez, c'est intéressant cette question-là. La confession de la foi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la liturgie doit être l'expression du dogme de l'Église. Elle doit confesser la foi de l'Église. Mais elle le fait de manière plus spécifique. Par exemple, Fils unique et Verbe de Dieu, c'est un petit credo. Le grand credo, Cred in unum meseu, Tata la Traditore, ça c'est le grand credo. Mais il y a l'autre petit credo, par exemple. Et justement, ça, quand on dit Le prêtre dit, ce n'est yubim ou ni peazi, et l'autre répond, pétard, pefuge, pefuge, on répond, afin de confesser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un seul cœur nous confessions, voilà, je le sais par cœur, pardon, en français, aimons-nous les uns les autres, afin que d'un seul cœur nous confessions. Et l'astrana ou le fidèle répond, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est bien une question de confession. Voilà un cas de. C'est très intéressant le caractère dogmatique, mais comment dire, le moment de confession de la foi, disons, la confession de la foi. Et un autre moment où on confesse la foi, c'est au moment de la communion, où on dit Crede, Shimar tu l'échec, doit amener que je crois Seigneur et je confesse que ceci est ton corps très pur, Kachas, c'est trop pour courat, pour la courat, ou trop, Kachas, c'est pour la. Pourquoi donc on le dit, c'est encore un credo. Oui, donc il y a des tas de moments dans la liturgie où les fidèles avec le prêtre confessent la foi ou affirment quelque chose du domaine de la foi. C'est très important. Je pense que tous les commentateurs de la liturgie n'insistent pas de cette façon-là sur le caractère dogmatique et confessant du culte. Bon. Ah oui, alors après ça, il y a un très beau chant qui est Yubi te voi do amne virtut et amia. Je t'aimerais, Seigneur, ma force. Et c'est très bon, c'est un chant en romain, c'est très, très bien chanté souvent. Bon. Pas toujours, mais s'il y a quelqu'un pour le chanter, je pense qu'ici c'est le cas. Quelqu'un qui le chante Yubi te voi do amne virtut et amia. On le chante ça, hein. Pendant ce temps-là, le prêtre donc s'incline deux fois, embrasse la patène et le calice et la table et s'incline encore une fois et il va ouvrir les rideaux pour le coup. Hein, là, vous voyez, là, il y a vraiment une on ouvre en disant les portes, ushile, shin tum. Chez eux, nous disons quelque chose. Rostejte, symbole ukrainse, pro tout le bon. Alors donc là, ici, il y a le moment de la confession par excellence de la foi qui précède l'offrande. Et là, donc évidemment, ça se fait. Ça veut dire c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'on dit il ouvre les portes, il ouvre les rideaux et on dit les portes, fermez les portes. Alors pourquoi? Mais si, parce qu'en fait, ce sont pas les mêmes. À l'entrée de l'église. On avait discuté ça une fois, les portes royales, je pense, et l'entrée du sanctuaire, et les portes saintes. Alors les portes saintes, on les ouvre parce que tous les fidèles participent, mais les portes de l'extérieur de l'église, on les ferme parce qu'à ce moment-là, personne ne doit entrer. Normalement, pour ça je vous le dis, parce que dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en retard, qui arrivent à 11h pour faire communier les enfants, etc. Mais normalement, les portes devraient être fermées et personne ne devrait entrer après le credo. Où chile. Les portes, sont attentifs dans la sagesse. Et après ça, je crois en un seul Dieu, on dit. Et ça, donc, le credo, normalement, est récité que par les membres, par les fidèles de l'Église, les membres effectifs de l'Église, et personne ne doit entrer à ce moment-là. Mais on n'ose pas avoir quelqu'un à la porte, on appelle un portier à l'Église, pour dire aux gens, non, vous n'entrez pas, c'est terminé. Là, vous n'entrez plus. Non seulement vous n'entrez pas, mais vous n'apportez pas vos pommelniques. Maintenant, c'est terminé. Vous n'apportez pas les petits pains. Maintenant, c'est terminé.
Les gens ne savent pas ça.
Oui, je sais bien. En fait, dans la pratique, mais c'est des pratiques qu'on pourrait améliorer. Dans la pratique, vous savez très bien qu'il y a des filles qui arrivent à 11h, 11h30, donc bien après le credo, et qui, à ce moment-là, apportent même des pommelniques, apportent des dons, sans se rendre compte du tout de ce qui se fait. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais à une des paroisses que je dessert à Montpellier, et pendant que les fidèles communiaient, pendant au même moment, il y avait d'autres fidèles qui arrivaient et qui apportaient leurs offrandes, sans se rendre compte du tout qu'on est en train de communier, ce qui est la chose la plus importante du monde. Je leur ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et ils ne savaient pas. Hein. C'est des gens gentils, mais ils ne savent pas. Donc il y aurait quand même... un peu de catéchèse à faire pour dire, à tel moment, on n'apporte plus le diptyque, à tel moment, on n'entre même plus dans l'église, tel qu'être là avant. Bon. Et ce qui se fait là, c'est tellement, tellement, tellement important, c'est la consécration du corps et du sang du Christ, tout de même, tout de même, tout de même. Ça, ça fait un peu de la peine, quelquefois, on se dit, on est vraiment tellement loin de tout ça, donc, où chile. Et alors, il dit, chez intime, chez unuldin, c'est qu'il y a une chose, rostejte, symbole, ukrainisei. Bon, vous savez très bien qu'ici, il y a plusieurs pratiques. Je pense que ça, c'est une très bonne pratique. Parce que le credo, comme vous le savez, il dit, je crois. Donc, c'est le mystère de la personne qui, au sein de l'assemblée, porte toute la foi de l'église. C'est vraiment très, très beau. Mais alors, il faut à ce moment-là que ça se passe bien, que la personne qui va dire le credo soit au milieu de l'église, qu'on l'entende bien, tout le monde écoute. Et c'est très solennel.
Non, on l'a dit tous.
Voilà. Alors, l'autre pratique, effectivement, consiste à ce que toute l'assemblée le dise. C'est ce qui se répand actuellement. Enfin, si vous voulez, il faut savoir que que ça soit dit par une personne, ce n'est pas absurde. Hein. C'est pas absurde. Que ça soit dit par tous, c'est évidemment très bien. Et puis l'autre pratique, il y a une troisième pratique, qui consiste à ce que ça soit chanté. Alors, le credo chanté, mais ça, c'est beaucoup dans l'église russe. Le credo est chanté, mais du coup, l'inconvénient, c'est que c'est généralement la strana qui le chante. Alors, les fidèles ne disent rien, ne confessent pas le credo, parce qu'ils ne le confessent pas parce que c'est chanté par le cœur. Donc ça, c'est un inconvénient. Et dans certains cas, tous les fidèles connaissent le chant et le chantent, mais c'est vraiment très rare. Très, très rare. Très, très rare. Mais je crois que c'est le fait que ce soit chanté, quand même, pour être un peu ouvert aussi à la discussion, alors que le fait que ce soit chanté, c'est tout de même intéressant, parce que ça veut dire qu'on considère que le credo est une hymne. Et ça, c'est quand même donc quelque chose quand même qui est profondément liturgique. C'est pas seulement une proclamation, c'est une hymne. On peut chanter le credo. Ouais. Mais donc, c'est pas ici, dans le petit picot que j'ai sous les yeux, c'est pas tout ça qui est prescrit. Prescrivent ce qui est la tradition la plus simple, d'ailleurs. Donc c'est une personne au milieu de l'Église qui dit la foi pour tous. Et c'est un laïc, hein, c'est pas, je pense, c'est intéressant. Ça veut dire que le laïc, un membre de l'Assemblée, exprime la foi de tous. C'est très beau, vous savez. Alors, donc, on a ça. Alors, pendant ce temps-là, merci, il y a un geste qui est très beau, puis je vais m'arrêter. Mais pendant ce temps-là, le prêtre prend ce qu'on appelle l'air et il l'agite au-dessus des dons. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mais je veux dire, c'est pas qu'il l'agite. Il clatine au chaud facilement. Oui, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit en fait d'un geste qui est un geste d'offrande. Voilà. C'est pas l'agiter, c'est le soulever légèrement. Comme vous savez, dans les offices des défunts, dans l'église roumaine, dans l'église serbe, pas dans l'église russe, d'ailleurs, malheureusement pour eux. Et on prend les dons, comme quand on chante Veshnik Apamenire, on prend les dons et on les élève, comme ça, on les et bien, c'est le même geste qu'il y a ici. En fait, le prêtre soulève l'air. S'il y a plusieurs prêtres, il le lève ensemble et il le soulève plusieurs fois. Alors, effectivement, ils font ce geste-là, mais c'est un geste d'oblation. Un geste d'oblation. On offre. Alors, ça, c'est très important. Parce que ça veut dire qu'il y a un lien organique entre la confession de la foi et l'oblation, que c'est dans la foi qu'on fait l'offrande, ou que l'offrande, c'est l'offrande de la foi, ou que la foi conditionne l'offrande. Enfin, vous pouvez spéculer autour de ça, c'est quand même très important. Et dans le même temps, cette offrande signifie quelque part le vol de l'esprit. Ça ressemble un petit peu ce tissu qu'on élève, ça ressemble aussi à un tissu qui descend comme le voile de l'esprit. Je sais ça parce que je connais une personne qui ne connaissait pas bien la liturgie et qui m'a dit après, mais écoute, il s'est passé une chose extraordinaire aujourd'hui. Je dis oui. Et pendant que les prêtres soulevaient le linge, comme ça, j'ai ressenti très 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 fort la présence du Saint-Esprit. Donc c'est assez beau ça, d'accord. En fait, il y a une épiclèse, il y a quelque chose d'épiclétique aussi dans ce geste. Bien qu'on ne dise rien, il n'y a aucune prière adressée au Saint-Esprit, si vous voulez. Mais c'est à la fois un geste d'oblation et c'est un geste d'épiclèse. En fait, l'Esprit Saint descend sur l'église qui confesse la foi. Et il descend, et quand il descend, il veut dire que l'offrande de l'église qui confesse la foi est acceptée. Alors les saints voient ça, nous on ne voit pas ça, nous on voit que des gestes comme ça, mais des saints comme Saint Jean Maximovitch, comme je ne sais pas qui, comme grand saint, bah, ou Saint Martin, saint, des gens comme ça, si vous voulez, ils ont vu ce qui se passait exactement à ce moment-là. Et quand c'est l'évêque, ça, vous savez, c'est très beau d'ailleurs, c'est très intéressant ça. Quand c'est l'évêque qui célèbre, ce sont les prêtres qui élèvent l'air, ils l'élèvent au-dessus de la tête de l'évêque. Pourquoi ? Parce que l'évêque est celui qui est le confesseur de la foi par excellence. Alors il ne le dit pas lui, c'est quelqu'un dans le peuple. Mais lui, à ce moment-là, il est celui sur lequel l'Esprit Saint descend, parce que justement, il est le confesseur de la foi par excellence. Si vous avez déjà assisté à une ordination épiscopale, c'est intéressant, l'ordination d'un évêque, ça ressemble absolument à une ordination de prêtre ou de diacre, c'est la même chose, sauf que justement, il y a un passage assez long qui est consacré à la confession de la foi. On demande à l'évêque de dire la foi des apôtres et des pères. Donc ça veut dire aussi que dans la liturgie, l'évêque est celui qui confesse la foi, et c'est pour ça qu'il est à la fois celui qui est offert, qui s'offre complètement dans la confession de la foi, et celui sur lequel descend l'Esprit Saint en premier, en quelque sorte. C'est comme une couronne sur la tête de l'évêque, ce passage-là. Donc ce sont des gestes très intéressants. Très beau, et c'est pas du folklore, c'est pas pour chasser les mouches, c'est pas, oui. Parce qu'on entend des bêtises, ils ont dit oui, mais ça c'est uniquement pour agiter. Bon, mais non, mais c'est un sens. Voilà. Allez, donc on va s'arrêter là. Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant je pourrais aller au fond de mon paragraphe, à quel moment est-ce qu'on arrête de soulever ce voile? Lui il dit. Quand on dit et il est ressuscité des morts, oui, mais en fait ce qui se passe, c'est que c'est en fait c'est ce qui suit qu'on arrête, c'est quand on dit qu'il est élevé, on arrête de faire l'offrande quand justement l'élévation est faite, l'exaltation du Christ est faite, et on le plie, on le range, c'est bon. Voilà, donc on s'arrête là pour vous dire, après ça, la suite, ça va être vraiment l'oblation elle-même. Ça sera très, très intéressant. Ça va, c'est pas trop.